Vous êtes sur RTL.
C'est un chiffre très impressionnant que vous révèle RTL ce matin. Il concerne les violences sexuelles sur mineurs. 49 viols sur enfants sont signalés chaque jour dans notre pays depuis le début de l'année. Enquête recueillie par notre spécialiste Alice Moreno. Alice qui a pu observer le délicat travail des gendarmes dans ces affaires terribles. Rendez-vous dès 7h15. À l'autre bout de la chaîne, l'histoire vraie d'un journaliste qui lui a infiltré la police. Notre confrère Valentin Gendreau est en lice pour le très prestigieux prix Albert Londres. Son enquête initiale est devenue une bande dessinée et il sera avec nous à 8h20. La politique, Alba Ventura reçoit la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili dès 7h40. Au cœur de cet entretien, la nouvelle déclaration d'amour du président Macron au nucléaire. Alors suffit-il de faire de petites centrales pour rendre le nucléaire plus sympathique? La question est posée. Je vous rappelle nos rendez-vous de détente et de plaisir. La pépite musicale d'Anthony Martin à 7h25, l'ironie de Philippe Cavrivière à 8h05, Laurent Gérard à 9h15 et Cyril Lignat qui tricote vos recettes juste avant 9h. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la campagne de vaccination patine toujours pour les plus de 80 ans.
Ils sont encore 560 000 à ne toujours pas être vaccinés. 13% de cette classe d'âge, pourtant la plus fragile. Le gouvernement déploie un nouveau numéro pour faciliter les rendez-vous à domicile. Il avait 19 ans quand il a répondu à l'appel du général de Gaulle en 1940. C'est une page glorieuse de l'histoire de France qui se tourne avec la mort du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. Barbie aussi peut être astronaute ou pompier. Les fabricants de jouets s'engagent contre les stéréotypes sexistes. Mais dans les magasins, vous l'entendrez, les clichés ont la vie dure.
On va niveler et faire un jouet unique, garçon et fille. Je trouve ça ridicule.
Reportage à suivre de Sophie Orange. Et puis d'aventure en aventure, les adieux manqués de Serge Lama. La pandémie l'aura empêché de monter une dernière fois sur scène. C'est dans un livre que le chanteur dit au revoir à ses fans.
La politique, Olivier Bost.
Et quand la grande histoire, le gaullisme, s'invite dans la petite campagne présidentielle.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Près de 76% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin, mais il reste encore et toujours cet angle mort en quelque sorte. 560 000 personnes de plus de 80 ans non traitées, 13% de cette classe d'âge particulièrement fragile. Du coup, les autorités vont à nouveau les contacter pour tenter de faire du cas par cas à Gatlandais.
Oui, car le ministère veut essayer de convaincre encore les plus âgés de se faire vacciner afin qu'ils soient bien protégés avant l'hiver. Et la principale nouveauté de cette campagne, c'est la création d'un nouveau numéro dédié qui permettra aux plus de 80 ans ou à leurs proches de demander une vaccination à domicile. Le numéro devrait être dévoilé dans les jours à venir. L'assurance maladie va elle aussi recontacter ses 560 000 non vaccinés par téléphone ou par courrier. On leur proposera aussi de recevoir le vaccin antigrippal en même temps que le vaccin Covid. 30% de ces récalcitrants avaient accepté de recevoir le vaccin grippe l'année dernière. Enfin, le ministère compte sur les professionnels qui les côtoient au quotidien, soignants en ville et associations pour personnes âgées isolées, pour les convaincre de se protéger avant l'hiver.
Merci Agathe Landais. La situation épidémique, elle est toujours sous contrôle. À moins de 5000 cas par jour détectés sur la semaine écoulée. Le chiffre fait froid dans le dos. Cette année, en moyenne, 49 viols sur mineurs ont été signalés tous les jours aux forces de l'ordre. C'est une information RTL, avec à chaque fois des enquêtes difficiles. Comment recueillir la parole de jeunes enfants traumatisés? On se souvient évidemment du fiasco d'Outreau. Alice Moreno a suivi la formation de gendarme spécialisé. Vous entendrez son reportage passionnant tout à l'heure à 7h15. Le lycéen majeur qui a fait tomber son enseignante vendredi dernier à Comblaville en Seine-et-Marne va être jugé en comparution immédiate cet après-midi au tribunal de Melun. Les deux autres élèves qui ont filmé et diffusé la scène vont être présentés à un juge pour enfants parce qu'ils ont moins de 18 ans.
Il est 7h03, Emmanuel Macron rendra hommage dans les jours qui viennent aux Invalides à Hubert Germain.
Oui, le dernier des 1038 compagnons de la Libération est mort hier, il avait 101 ans. Hommage donc à celui qui symbolise tous ces jeunes résistants de la première heure auprès du général de Gaulle, Brice Dugénie.
Oui, en juin 1940, Hubert Germain n'a que 19 ans, mais il refuse l'armistice signé par le gouvernement français.
C'est un moment où la France se couchait littéralement. Les politiques se sont couchés.
Alors mon premier acte de résistance a été un peu grossier, je veux dire, a été j'emmerde du gouvernement français.
Il décide de partir, de prendre les armes et embarque à Saint-Jean-de-Luz pour retrouver le général de Gaulle en Angleterre.
De Gaulle était là et il m'a dit ceci, quand on dit ça à un gamin de 19 ans,
je vais avoir besoin de vous.
Le général a besoin de lui, alors Hubert Germain s'engage dans les forces françaises libres. Il va combattre en Syrie, en Libye et la célèbre bataille de Bir Hakeim, puis l'Égypte, la Tunisie, l'Italie et en 1944, le débarquement en Provence, première fois après 4 ans de combat qu'il retrouve la France.
Quand je suis arrivé sur la plage, j'ai fait 10 mètres en entraînant mes hommes. J'avais plus de jambes. Je suis tombé et j'ai pleuré comme un enfant. Mais j'avais retrouvé mon pays.
À 101 ans, Hubert Germain était le dernier des 1038 compagnons de la Libération. À ce titre, conformément aux souhaits du général de Gaulle, il sera inhumé dans la crypte du Mont-Valérien.
Et ce sera le 11 novembre. Merci beaucoup Brice Dugénie. Le Mont-Valérien, symbole de la France combattante, où ont été exécutés plus de 1000 résistants. Le président de la République a donc présenté son plan France 2030 hier, avec notamment 1 milliard d'euros pour développer ses mini-réacteurs nucléaires en plus des centrales existantes. Alors est-il un président pro-nucléaire ? A-t-il évolué sur la question ? On en parlera avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, invitée d'Alba Ventura, tout à l'heure à 7h40.
Et puis notez-le, RTL inaugure demain sa matinale spéciale présidentielle, le petit déjeuner de campagne. Marine Le Pen sera sur notre antenne de 7h30 à 8h45. Elle répondra d'abord à Alba Ventura et François Langlais, puis à vos questions à partir de 8h20. Tous les candidats qu'ils voudront se plieront à l'exercice durant toute la campagne.
Tout autre chose maintenant, Yves, on en a déjà parlé d'ailleurs sur RTL. À partir du 1er novembre, les GPS connectés avertisseurs de radar ne seront plus autorisés à afficher des contrôles, notamment en matière d'alcoolémie. Mais il y a un hic, des groupes se sont formés sur les réseaux sociaux, 100 000 membres par exemple dans ce groupe Facebook, qui s'échangent des informations sur les contrôles en cours, Christophe Bourreau.
Pour les avocats spécialisés dans le droit routier, cela s'appelle une faille dans le système. En effet, selon maître Rémi Jossaume, rien n'interdira au 1er novembre de signaler sur les réseaux sociaux les contrôles de police, y compris pour les tests d'alcoolémie ou de stupéfiants.
À ce jour, les différents réseaux sociaux ne sont pas concernés par cette législation.
Et c'est sur les pages Facebook que les groupes sont les plus actifs.
Tous ces groupes qui se sont formés depuis maintenant 5 ou 6 ans, parfois certains regroupent près de 100 000 utilisateurs, eh bien ces groupes-là peuvent rester actifs concernant tout risque routier ou de contrôle routier.
Pourtant, en 2014, la justice s'était déjà saisie de ce problème via un groupe Facebook de l'Aveyron qui signalait les contrôles de vitesse. L'affaire avait été tranchée par la Cour de cassation.
En jugeant que le réseau social ne rentrait pas dans l'interdiction prévue par la loi, parce que la liberté d'expression reste une liberté fondamentale, et notamment l'information visant les contrôles routiers.
Et au-delà des réseaux sociaux, les forces de l'ordre craignent de voir ressurgir au 1er novembre une bonne vieille pratique, l'appel de phare.
Et voilà, à l'ancienne. Ah. Merci Christophe Bourreau, spécialiste auto à RTL.
À l'image de Lego qui ne fait plus la différence entre les jeux pour filles ou pour garçons, les fabricants veulent bannir les stéréotypes de genre, mais vous verrez que dans les magasins, les clichés demeurent. C'est dans un instant sur RTL. Restez avec nous. Il est 7h07. Bonne journée.
RTL Matin.
Il est 7h09. La suite du journal d'Olivier Bois. Les fabricants de jouets veulent en finir avec les stéréotypes de genre.
Oui, Barbie peut aussi être pompier ou astronaute. Bah oui. Elle incarne désormais 200 métiers possibles, contrairement à ce qui se faisait avant. Lego aussi, le numéro 1 mondial du jouet, retire la mention pour filles ou pour garçons. Mais concrètement, que font les parents ou les grands-parents alors que précisément on est en train de commencer à acheter les jouets de Noël? Eh bien, les clichés perdurent parfois, Sophie Orange.
Dans ce magasin de jouets, les avis sont parfois tranchés.
On va niveler et faire un jouet unique, garçon et fille.
Je trouve ça ridicule.
Ou plus nuancé.
Mes filles, elles sont très Barbie, très poupées, et elles ont aussi des voitures et des garages, mais elles y jouent moins. C'est ce qui leur plaît, donc je peux pas trop lutter, quoi.
Une charte existe depuis 2 ans pour des jouets plus mixtes, mais des marques n'ont jamais fait de différence, comme Auxibul, créé il y a 30 ans, dirigé aujourd'hui par Catherine de Blicquer.
Par exemple, quand on fait un choix, on dit qu'est-ce qu'il aime l'enfant ? L'imaginaire, la créativité, on rentre jamais par c'est un garçon, une fille. Dès qu'on classe les enfants dans des stéréotypes, de dire c'est pas pour toi, c'est pour l'autre, on ne s'ouvre pas vers les possibilités que le monde nous offre.
Mais parfois, explique Franck Mattel, le porte-parole de Jouet Club, le fabricant est en plein paradoxe.
Vous pouvez avoir un produit qui est complètement mixte, par exemple une trottinette, par exemple une tablette tactile. Pour en vendre plus, il faut en faire dans 2 coloris différents. Un coloris pour les garçons, un coloris pour les petites filles. Ça donne des nouvelles parts de marché.
Et au lieu d'acheter une seule trottinette rouge pour toute la famille, vous en prenez 2, une rose pour votre fille et une bleue pour votre fils.
Et on rappelle que le rose peut aussi être la couleur préférée des petits garçons. Bah oui. Merci beaucoup Sophie Orange. Ce joujou-là, lui, il plaît autant aux garçons qu'aux filles, mais tout le monde ne pourra pas avoir son iPhone 13 pour Noël à cause des pénuries mondiales de puces électroniques. Le groupe ne pourra fabriquer que 80 millions de son nouveau smartphone, soit 10 millions de moins que prévu.
7h10, c'est un crève-cœur pour lui, mais Serge Lama renonce à remonter sur scène.
Oui, il espérait à 78 ans refaire une tournée d'adieu, mais la pandémie l'année dernière a chamboulé ce projet. Il renonce donc finalement à retrouver son public, en tout cas sur scène, et il s'en explique ce matin pour la première fois sur RTL au micro de Steven Bellery.
À mon âge, je pense qu'il est raisonnable de se retirer des affaires parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie et je voudrais un peu profiter de ma famille, profiter de cet amour jeune que j'ai avec une femme jeune. Il y a en plus le fait que sur scène, je suis plus aussi sécure que je l'étais il y a quelque temps, quoi. On se casse la figure assez vite à mon âge. Alors, vous savez, ma jambe, je marche sur une seule jambe depuis 55 ans. J'ai qu'une jambe. C'est que ma jambe droite. Donc, elle prend tout. C'est dangereux. Et puis aussi, quelque part, c'est moral de savoir s'arrêter. Attends, il faut pas aller plus haut que son destin ne vous le permet.
Mais ne pas avoir pu dire au revoir aux gens, les regarder dans les yeux, ça vous rend un peu triste?
Oui,
ou pas?
Ça me rend très triste, mais honnêtement, il faudrait que j'aille dire au revoir à tellement de gens.
Vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous?
On retiendra rien. Ne me fait aucune illusion, on retiendra rien. On n'écrira pas des thèses sur Serge Lama, ça m'étonnerait.
De train en train, de pas en port, jamais encore.
Mais si on retiendra cette magnifique chanson d'aventure en aventure, Serge Lama qui publie un livre tout de même aujourd'hui, Ma vie, mes plus grandes chansons illustrées par mes peintres préférés.
Et nous en parlerons longuement avec lui tout à l'heure dans Laissez-vous tenter avec beaucoup de plaisir. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Enghien-Soisy.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 6, le 2, le 11, le 15, le 16 et le 12. La dernière minute, c'est le 2 en folie.
Et le journal nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h12, la politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Quand la grande histoire s'invite dans la petite campagne présidentielle, Olivier.
Oui, la grande histoire, c'est bien sûr la disparition d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, mort à l'âge de 101 ans. Il n'a pas accepté la défaite, il a refusé la lâcheté et à 20 ans, il a rejoint l'Angleterre. Quand d'autres choisissaient Pétain, Hubert Germain a choisi à jamais le général de Gaulle. Cette disparition n'est un rien de cette histoire de France. Le dernier des compagnons sera célébré ce vendredi par Emmanuel Macron. Le dernier témoin devient un héros éternel. Les Invalides, assurément, cette fois-ci, auront tout leur sens.
On peut imaginer aussi que le gaullisme sera célébré.
Oui, ce matin, tout le monde est gaulliste. Plus que jamais. C'est un héritage universel. Comme l'avait dit André Malraux dans une célèbre formule, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Et dans notre petite campagne présidentielle, vous ne trouverez personne pour ne pas se revendiquer une filiation des plus évidentes aux plus fantaisistes avec le général. Se revendiquer du gaullisme est un classique, devenu même universel. Pas plus tard qu'hier, Emmanuel Macron a présenté son énième plan de relance, France 2030, un plan teinté de posture gaullienne. Notre pays adore retrouver le mythe de ses élans novateurs et précurseurs à coups de milliards d'argent public que nous n'avons plus. Emmanuel Macron emprunte aussi à De Gaulle un certain dépassement de la gauche et de la droite. À Londres, entre compagnons, il n'y avait plus d'étiquette politique.
Mais vous nous le disiez, Olivier, le général est à tout le monde.
Oui, le père de la Ve République est célébré par tous ceux, précisément, qui prétendent aujourd'hui à la fonction suprême. Même Marine Le Pen avait tenté l'hommage l'an dernier, une forme d'ultime acte de dédiabolisation pour renier, une bonne fois pour toutes, les fondements du Front National et l'anti-gaullisme viscéral de son père. De Gaulle était, avait-elle justifié, hanté comme l'est le Rassemblement National aujourd'hui par l'idée du déclin de la France. Même Jean-Luc Mélenchon a trouvé dans l'étatisme du général des points de convergence avec ses idées.
Bon, mais c'est à droite que la filiation est évidemment la plus évidente.
Alors bien sûr, Xavier Bertrand notamment a choisi dans la palette le gaullisme social, mais en cet automne 2021, la mémoire du gaullisme est aussi à minima malmenée, au pire bafouée. Éric Zemmour accuse les Républicains d'avoir trahi De Gaulle tout en réhabilitant Pétain. Maurassien et gaulliste en même temps, chacun récupère son petit bout de gaullisme jusqu'à dévoyer cette mémoire commune. Dans cette petite campagne présidentielle, la grande histoire, celle des compagnons de la Libération, ne grandit pas tous ceux qui s'en revendiquent.
Olivier Bost, à 7h40, Alba Ventura reçoit la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Beaucoup de questions, notamment sur l'investissement massif dans le nucléaire annoncé par le président Macron hier. On parle hydrogène, décarbonation de notre industrie. Rendez-vous donc dans une trentaine de minutes sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h16, prenons la direction de Londres pour retrouver notre brigade RTL et évoquer la fameuse affaire du Bugalet Braes qui est traitée par la justice britannique. Je vous rappelle ce naufrage, survenu le 15 janvier 2004 au large des côtes de Cornouailles anglaises et dans lequel ont péri les 5 marins du chalutier breton. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous suivez l'audience pour RTL. Hier, c'était une journée cruciale puisqu'on attendait le témoignage du commandant du sous-marin britannique, la Royal Navy, qui rejette toute responsabilité.
Oui, Andrew Coles était le commandant du HMS Turbulente et les familles sont persuadées que c'est son sous-marin qui aurait tiré le chalutier par le fond. Mais Andrew Coles n'a fait que répéter que le jour du drame, il était à quai. Dominique Tricot, l'avocat des familles, est déçu mais il reste combatif.
Depuis le début de l'inquest, chacune des personnes entendues annonce comme dans une répétition de CM2 des dépositions qu'elle a déjà faites 10 fois. Donc on n'avance pas beaucoup. Et M. Coles n'a pas désamorcé un seul des éléments à charge qui existaient contre le turbulent.
Alors il y a eu un petit moment d'émotion à la fin de l'audience, de l'aveu même de Thierry Le Métayer, qui est le fils du mécanicien du Bugalet Braes. Andrew Coles est venu lui dire « J'espère que vous trouverez les réponses à vos questions, je suis désolé pour tout ça ».
Même s'il a l'humanité, je dis, quand je lui serre la main, je sens qu'il a l'humanité. Mais ça s'arrête là, voilà.
Mais Thierry Le Métayer reste persuadé qu'Andrew Coles ne dit pas toute la vérité.
Marie, dites-nous, est-ce qu'il reste encore un espoir que cette enquête mène effectivement à quelque chose ?
Alors, il y a encore plusieurs témoignages à venir, dont celui des sauveteurs en mer de Cornouailles, dont Thierry Le Métayer attend beaucoup, mais l'avocat Dominique Tricot avoue que la tâche va être dure.
On a 2 marines qui mentent, on a 2 gouvernements qui mentent, et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'un ministre de mon gouvernement, M. Le Drian, qui a dit à un de vos journaux télévisés qu'il savait des choses, ne veuille pas les dire. Et c'est quand même le minimum qu'on attend d'un ministre français qui vienne en aide aux familles dans ce moment qui est peut-être le dernier moment de vérité.
Alors l'avocat fait référence ici au ministre de la Défense qui a dit que les Anglais n'ont pas tout dit.
Merci beaucoup Marie Billon, en direct de Londres pour RTL. RTL événement, dans un instant, notre journaliste Alice Moreno a pu suivre une formation pour les gendarmes en région parisienne. Vous allez l'entendre, ce sont eux qui sont chargés de recueillir les témoignages de jeunes victimes d'abus sexuels. En France, chaque jour, 49 viols sont signalés aux autorités judiciaires, d'où l'importance de savoir écouter et faire face à ces victimes. A tout de suite sur RTL.
RTL événement.
Depuis le début de l'année, ce sont près d'une 50aine de viols sur mineurs qui sont signalés chaque jour à la police et à la gendarmerie pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel sur mineurs. Les services de police et de gendarmerie ont reçu en moyenne 68 signalements chaque jour dans notre pays. Des chiffres qu'RTL vous révèle ce matin. Pour les enquêteurs, recueillir la parole d'un mineur victime est un acte d'enquête particulièrement délicat, vous l'imaginez. Le but est d'obtenir un maximum de détails sur des abus difficiles à aborder, encore plus avec un enfant. Et surtout, ne pas influencer, suggérer quoi que ce soit au mineur sans le brusquer. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez pu suivre une formation de gendarme au centre de Rosny-sous-Bois, formation spécialement dédiée à l'audition de mineurs victimes de violences sexuelles. Elle dure 2 semaines et prévoit des exercices de mise en situation de vraies fausses auditions d'enfants victimes.
Oui, c'est la gendarme stagiaire Julie Hamdani qui se prête à l'exercice ce matin. Elle auditionne la jeune Noah, 14 ans, abusée par son père.
Donc voici la salle où on va discuter ensemble. Tu vois, il y a une caméra, il y a des micros, ça va servir à enregistrer notre conversation pour que j'oublie rien de tout ce que tu me dis.
Le rôle de l'adolescente victime est joué par une gendarme réserviste.
On va raccompagner maman ?
L'entretien va durer 1 heure. Il débute par une phase de mise en confiance.
Noah, je suis contente de te rencontrer. Comment vas-tu ? Ça peut aller ?
Au bout d'une dizaine de minutes, l'enquêtrice aborde les abus sexuels. L'audition est retransmise dans une salle technique. Un binôme gendarme observe l'entretien sur un petit écran.
Je comprends que quelque chose s'est arrivé avec ton père.
Oui, il est arrivé derrière moi et il a caressé mes fesses.
L'enquêtrice recueille tous les éléments selon un protocole extrêmement précis, avec des formules très ouvertes. Objectif, ne rien suggérer aux mineurs.
Alors, parle-moi plus de toucher le corps. Parle-moi de la position de ses mains sur ton dos.
Bah, je sentais ses mains le long du dos, enfin les deux mains, et il descendait petit à petit.
Parle-moi, dis-moi, Julie n'emploie jamais la formule « raconte-moi » qui renvoie à l'imaginaire. Puis elle sort pour un brief avec une de ses collègues.
Je reviens. Je t'ai préparé les questions. Parle-moi plus de la pression des mains de papa quand il te caresse. En fait, savoir si elle a eu mal, si... Enfin, tu vois, je sais pas.
Oui.
Parle-moi plus de ce que tu as ressenti, si tu penses que c'est utile. Parle-moi plus de ta position exacte sur le canapé.
Quand l'audition se termine, la classe de 20 stagiaires analyse l'entretien avec un psychologue.
Alors bien sûr, on l'a compris, plus elles sont précises, plus les déclarations du mineur sont précieuses et capitales pour préparer les auditions des suspects.
Absolument, décrire une tenue vestimentaire, un geste précis, la pièce dans laquelle les faits se seraient déroulés, tout peut être utile à l'enquêteur. Jean-Michel Breton dirige le centre de formation.
L'enquêteur qui va préparer l'audition du mis en cause, il va partir de l'audition d'enfant, et plus il a d'informations, plus l'entretien qu'il va faire avec l'auteur, il va avoir des éléments de contradiction à lui opposer.
Il admet qu'entendre un mineur, c'est l'acte d'enquête le plus délicat à mener.
Parce qu'on parle de sexualité. Il faut s'imaginer qu'un enfant qu'on ne connaît pas, 20 minutes après, on va parler avec lui de sexualité. Mmh. Si on faisait ça avec un adulte, vous imaginez que vous ne connaissez pas. 20 minutes après, vous devriez décrire un acte sexuel violent.
Pour mieux gérer l'émotion, éviter l'improvisation, tous les entretiens sont menés sur la base d'un protocole préécrit. Les questions existent déjà sur le papier. Cela rassure la stagiaire Julie Hamdani.
Bah avoir un petit peu de technique, c'est quand même beaucoup mieux. En voulant bien faire, on a des questions qui influencent malgré nous, c'est humain. Donc en suivant un protocole qui est établi, c'est quand même plus carré, plus neutre. On a moins de chances que la procédure soit cassée après par les avocats.
Elle attendait cette formation depuis longtemps.
Ça fait 4 ans que je suis sous-officier et ça fait 4 ans que je voulais la suivre. Grâce à notre travail, en fait, ça ne va pas effacer ce qui a été fait. Et grâce à nous, peut-être qu'un auteur sera puni. Des fois, c'est compliqué parce que voilà, y a des mineurs qui sont particulièrement touchants, il y a des histoires qui sont particulièrement difficiles. Mais voilà, on est là pour les aider et c'est pour ça qu'on travaille aussi, quoi.
Comme Julie, un peu plus de 200 gendarmes sont formés ici chaque année à l'audition des mineurs victimes.
Et je vous rappelle cet autre chiffre. Donc 49 viols sur enfants sont signalés chaque jour, j'ai bien dit chaque jour, dans notre pays depuis le début de l'année. Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
On va retrouver maintenant notre pépite musicale, ça va nous faire du bien. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avez-vous choisi pour nous ce matin?
Alors, il y a quelques jours, Elton John a dévoilé ce titre inédit. Finish Line, nouvelle chanson qui figurera dans l'album d'Elton John The Lockdown Sessions qui sort la semaine prochaine. Une chanson qui renferme un solo d'harmonica signé Stevie Wonder. Au départ, Elton John voulait simplement que Stevie Wonder joue sur ce morceau. Il l'a déjà fait, d'ailleurs, sur 2-3 chansons dans les albums d'Elton John. Mais cette fois-ci, en studio, l'aventure est allée plus loin. Elle s'est transformée en duo. Ce titre Finish Line réunit Elton John et Stevie Wonder. Et c'est la première fois que ces deux légendes chantent ensemble. Ça valait bien notre pépite du jour. Stevie Wonder réunit en gospel sur ce texte qui dit « Malgré les handicaps, les accidents et les chutes dans la vie, on se retrouvera sur la ligne d'arrivée ». Elton John est un grand fan de Stevie Wonder depuis toujours. Ils sont amis depuis 50 ans. Dans sa biographie parue il y a 2 ans, Elton John racontait que lors d'un séjour chez lui dans le Colorado, il avait laissé Stevie Wonder non-voyant conduire seul sa motoneige. Et il avait ajouté avec beaucoup d'humour en le regardant partir « Allez, un rival de moins ».
Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain, puis à tout moment en podcast sur l'application RTL. Dans un instant, nos grosses têtes et un point complet sur la météo. Avec vous Louis Baudin, tout de suite. Oui.
RTL Matin, Yves Calvi.
Grosse tête vous attend dans le grand studio entre 15h30 et 18h. Et aujourd'hui, on prend des nouvelles du médecin explorateur Jean-Louis Etienne.
Vous le connaissez, Jean-Louis Etienne ?
Ouais, je connais bien. Il avait fait un truc qui est vachement bien, il y a des années de ça. Il était allé au pôle Nord tout seul, en tirant son traîneau. Et le problème, c'est qu'au pôle Nord, il y a des ours, quoi.
Moi, je connais Jean-Louis David, mais c'est moins dangereux.
Et moi, je connais le pole dance.
Bah, c'est les mini-vagues, c'est pas pareil. Alors que l'autre, c'est des vagues de 38 mètres.
Et rendu avec toute l'équipe dès 15h30 sur RTL. Pour l'instant, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 13 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on n'a pas fini de voir Omar Sy sur Netflix. Il a déjà conquis des dizaines de millions d'abonnés dans le monde avec Lupin. Et on apprend que le comédien a signé un contrat de plusieurs années avec la plateforme, comme acteur et comme producteur exécutif. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
C'est une première pour un comédien français.
Oui, Omar Sy rejoint le petit club des stars ayant signé avec le géant américain des plateformes, Charlize Theron ou Denzel Washington, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, vous le disiez, c'est que ce contrat lui offre un rôle d'acteur, mais aussi de producteur dans des films à venir. Aucune info sur le montant ou le contenu à ce jour, mais l'acteur français développera ses projets via sa société à Paris et à Los Angeles. C'est la confirmation de la love story entre Omar Sy et Netflix. À l'automne, l'année prochaine, la nouvelle saison de Lupin devrait débarquer sur nos petits écrans et d'ici là aura été diffusée Au-delà du périph', la suite du film De l'autre côté du périph', où il retrouve Laurent Lafitte. Alors, attention, ce contrat est exclusif en ce qui concerne les plateformes, mais il ne prive absolument pas Omar Sy de cinéma. On le verra l'an prochain, cette fois sur grand écran dans le nouveau Jurassic World, ou dans Tirailleurs, où il incarne un Sénégalais s'engageant dans l'armée française en 1917. Programme chargé donc.
Effectivement, merci Stéphane Boutsock pour toutes ces précisions.
Le plan France 2030 d'Emmanuel Macron relance le nucléaire et le débat aussi.
Oui, un plan d'investissement de 30 milliards d'euros dans les technologies d'avenir, l'hydrogène vert, les biomédicaments, les composants électroniques et donc 1 milliard d'euros pour développer des mini-réacteurs nucléaires. Une hérésie pour les écologistes et le député Mathieu Orphelin pointe les contradictions de son ancienne collègue Barbara Pompili, aujourd'hui ministre.
Je note que sur le nucléaire, elle aussi, sa position a fortement varié, même si ce n'est pas le sujet sur lequel elle est le plus audible aujourd'hui. Mais enfin, moi, ça m'a franchement choqué de voir la tribune des ministres de Bercy et de voir ce silence absolu de la ministre de la Transition écologique. Mais je crois qu'aussi, elle se rappelle de ce qu'elle portait quand elle était députée il y a quelques mois.
Barbara Pompili qui répondra dans quelques minutes puisqu'elle est l'invitée d'RTL avec Alba Ventura.
10 à 12 mois de prison avec sursis requis contre Alain Grisé. Peine assortie d'une amende et de 3 ans d'inéligibilité. Le ministre des PME est accusé d'avoir oublié un PEA de 170 000 euros dans sa déclaration de patrimoine. Le recours au pass sanitaire prolongé jusqu'au 31 juillet, c'est ce matin en Conseil des ministres. Normalement, son application prend fin le 15 novembre, mais le gouvernement veut se garder cette possibilité en cas de reprise de l'épidémie.
Alors, on ignore toujours les circonstances exactes de l'accident. 3 migrants sont mort hier, percuté par un TER près de Saint-Jean-de-Luz.
Un quatrième est grièvement blessé. Une enquête de flagrance est en cours. Lucie Bourteroux est présidente de l'association Diakaté qui vient en aide aux migrants.
Ces gens, ils nous le disent, ils veulent arriver à destination, au péril de leur vie. On avait déjà eu 2 personnes noyées dans la bille à soie. Pour nous, c'était inconcevable que des gens meurent entre Irun et Hendaye. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, on y est. Donc c'est une catastrophe qui, malheureusement, ne va peut-être pas s'arrêter là. Ils se sont endormis sans mesurer l'endroit où ils étaient parce qu'il faisait nuit. Peut-être. Difficile de le savoir à l'heure qu'il est.
Propos recueillis par Philippe de Maria. Une nouvelle arme dans l'arsenal contre les violences conjugales. Le ministre de l'Intérieur veut tester d'ici la fin de l'année un dispositif qui permettra aux policiers et aux gendarmes de recueillir la plainte des victimes ailleurs qu'au commissariat, chez un proche par exemple, ou une assistante sociale ou à la mairie.
Il était le dernier des héros, Hubert Germain. L'ultime compagnon de la Libération vient de disparaître à l'âge de 101 ans.
Il s'était engagé dès juin 40 auprès du général de Gaulle. Il n'avait que 19 ans. Il s'est battu sur tous les fronts et il a participé au débarquement en Normandie en juin 44.
Dans les marches de débarquement, on était là, tendus comme des cordes de piano. Il fallait tuer. La première fois de ma vie où le sentiment de volontaire de mort était là, il fallait tuer pour passer. Quand je suis arrivé sur la plage, j'ai fait 10 mètres en entendant mes hommes. Je suis tombé et j'ai pleuré comme un enfant. Ou pas longtemps. Et je me suis dit, attention, t'es pas là pour t'attendrir, la guerre continue. Mais j'avais retrouvé mon pays.
Et en tant que dernier des 1038 compagnons de la Libération, Hubert Germain sera inhumé au Mont-Valérien. C'était la volonté du général de Gaulle. Cérémonie qui sera présidée par Emmanuel Macron le 11 novembre. D'ici là, un hommage lui sera rendu aux Invalides.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, ce sera la face cachée des scellés judiciaires du tribunal de Marseille. Un inventaire à la Prévert qui va du sabre nazi au balai brosse.
Rendez-vous tout à l'heure. Il est pris, rendez-vous à 8h40, Isabelle. Louis Baudin est avec nous. Il nous propose sa météo dans un instant.
RTL Matin.
7h36, Louis Baudin, parlez-nous de notre météo.
Ben oui, ben c'est un peu bloqué en ce moment. Vous avez vu, je me répète de jour en jour. Je vous dis, il n'y a pas de pluie, il y a quelques brumes, brouillard, puis ça se lève plus ou moins l'après-midi. Ben c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors ce matin, les nuages, ils sont plutôt entre le Massif central et la région Rhône-Alpes, avec même quelques petites brunes. Vous savez, la brune, la différence avec la pluie, la gouttelette, elle fait moins de 1,5 mm.
Voilà. C'est la taille de la goutte d'eau.
C'est la taille de la goutte d'eau qui détermine la différence entre la brune et la pluie. Ça ressemble à un brumisateur. Bon, ben tout ça va disparaître cet après-midi pour laisser le soleil s'imposer quasiment partout. Toujours un peu plus de nuages près des frontières du nord-est. Encore du Mistral et de la Tramontane. Attention, jusqu'à 80 km/h autour du golfe du Lion. Puis les températures, ben c'est froid hein, ce matin. Il y a des gelées à Charleville-Mézières, pas loin de Romorantin. Et cet après-midi, 12 à 14 degrés seulement dans le nord-est, 15 à 19 degrés ailleurs et un peu plus de 20 degrés seulement près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis. Dans un instant, on retrouve François Langlais qui nous explique et qui constate l'exode des habitants des grandes villes, en particulier à Paris. Toutes ces explications dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Cher François, on compte cette année scolaire 6000 élèves en moins dans les maternelles et les écoles de Paris par rapport à l'année dernière.
Incroyable, hein, chute sans précédent. En fait, c'est 5% des élèves qui ont disparu. Ça fait suite à une baisse de 3700 élèves l'année dernière. Et avant l'épidémie, il y avait quand même une décrue, mais elle se limitait à 2500 écoliers en moins par semaine. Un mouvement qui va bien au-delà de la chute de la natalité et qui traduit la désaffection croissante du centre de la capitale. Un écolier qui n'est plus là, bah, c'est bien souvent que ses parents ont quitté Paris pour aller vivre ailleurs. Et c'est un mouvement qui dépasse largement Paris.
Vous voulez dire que d'autres grandes villes sont concernées, c'est ça ?
Voilà encore quelques chiffres étonnants. New York perd plusieurs dizaines de milliers d'habitants chaque année et 100 000 depuis l'épidémie. À Londres, ce sont 700 000 habitants qui ont disparu en 2020-21 à cause du virus, mais surtout du Brexit, bien sûr, qui a fait déserter bon nombre d'étrangers. Los Angeles, dans le même temps, a perdu 120 000 habitants. Chicago, 80 000. Même Pékin et Shanghai voient leur population décroître. Ça fait d'ailleurs plusieurs années, ça a commencé en 2017.
Mais c'est l'épidémie qui est le déclencheur de l'exode urbain ?
Bon, plutôt l'accélérateur, disons. La fuite était enclenchée avant, à cause de la montée des prix de l'immobilier, qui exclut les classes moyennes et les familles, celles-ci ayant évidemment besoin de plus de place. Il y a aussi la difficulté croissante à circuler dans les villes, hein, qui pénalise là encore les familles avec de jeunes enfants pour leurs déplacements en voiture. Et bien sûr le virus, la peur de la contagion et donc l'évitement des zones à forte densité de population comme le cœur des villes, avec enfin, ça a été déterminant, la possibilité de télétravailler qui a décidé bon nombre de candidats à l'exil.
Bah, du coup, on se pose une question, c'est du coup les villes seront habitées par qui demain ?
Des célibataires aisés, des gens qui possèdent des appartements hérités et puis des touristes Airbnb. On observe déjà le mouvement à Paris. Hein. Ouais. Figurez-vous qu'à Paris, 51% des habitants vivent seuls. Les familles ne subsistent que dans les arrondissements périphériques, c'est ceux qui sont les moins chers. Le bon peuple parisien des romans de Balzac, il est parti depuis longtemps. Et d'ailleurs, les commerces traditionnels disparaissent au profit de galeries d'art et de bars pour les visiteurs occasionnels.
Bien sûr. Si les villes se vident, ça signifie que leur poids économique diminue aussi.
C'est vrai que depuis toujours, le développement et la montée du niveau de vie d'un pays s'accompagnent d'une croissance des cités. Et ces cités, elles concentrent les opportunités professionnelles, les ressources humaines les plus qualifiées, et bien sûr l'argent, le capital. La montée en puissance des services dans l'économie, aux dépens de l'industrie, n'a fait qu'accélérer cette tendance, parce que les services se développent davantage dans les zones les plus peuplées. La croissance est donc toujours accompagnée d'un exode rural massif. Et voilà que ça s'inverse pour la première fois. Alors pour autant, on aurait tort d'en conclure tout de suite que les villes s'affaiblissent, parce que si on quitte les villes, c'est justement parce qu'on peut rester connecté à elles, grâce au réseau de télécom et au télétravail. Leur emprise subsiste donc. C'est leur forme qui change, avec des périphéries qui se sont considérablement agrandies, en intégrant même des zones rurales où les citadins exilés s'installent. La modernité a enfin réalisé le rêve de l'humoriste Alphonse Allais, construire les villes à la campagne, parce que l'air y est plus pur.
Merci François. François Langlais. On vous retrouve sur le site RTL.fr. Et puis on retient ce chiffre quand même tout à fait extraordinaire. À Paris, 51% des habitants vivent seuls. Merci François, à demain. Il est 7h43. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Le président relance le nucléaire. Il a annoncé hier la construction de mini-réacteurs nucléaire, ben, qu'en pense la ministre écolo du gouvernement?
A tout de suite avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h46, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Le plan France 2030 annoncé hier par le président Macron, c'est notamment 8 milliards d'euros consacrés à l'énergie. Et dans ces 8 milliards, 1 milliard pour le nucléaire avec la construction de réacteurs nucléaires de petite taille. Vous n'avez pas l'impression de manger votre chapeau ?
Non, j'ai surtout l'impression qu'enfin on se prépare à l'avenir. Le plan France
avec
2030,
le nucléaire.
Le plan France 2030, c'est la souveraineté écologique de notre pays qu'on met en place pour être prêt à affronter la suite, à affronter le changement climatique, à affronter tous les défis que nous avons. Le plan France 2030, le but, c'est que nous puissions être indépendants dans la fabrication de notre énergie, dans notre électricité, qu'on puisse faire de l'hydrogène qu'on fabrique chez nous, faire des énergies renouvelables qu'on fabrique chez nous, être enfin souverain sur les matériaux, les terres rares. Vous entendez parler de ces problèmes que nous avons d'alimentation, parce que nous sommes dépendants vis-à-vis de
mais de nouveaux réacteurs nucléaires, même de petite taille. Ça, c'est acceptable pour vous, l'écologiste du gouvernement?
C'est acceptable pour toute personne qui est pragmatique. Je vous rappelle que nous avons besoin de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Nos émissions de gaz à effet de serre, n'oublions jamais que notre énergie, 2/3 de notre énergie utilisée en France, c'est du pétrole, contrairement à ce que certains peuvent croire. Et donc, pour utiliser moins de pétrole, il faut d'abord qu'on fasse des économies d'énergie, c'est tout le travail qu'on fait sur l'isolation des bâtiments, par exemple. Et puis, il faut switcher, passer du pétrole à l'électrique qui est décarboné. Donc, les véhicules électriques ou bien la décarbonation de notre industrie. Ça veut dire que nous allons avoir besoin de plus d'électricité. Et ça, ce sont une nouveauté. Nous avons RTE qui fait des projections régulièrement et qui là nous dit, d'ici 15 ans, nous allons avoir besoin de 20% de plus d'électricité. Donc, et bien, comment on la fabrique cette électricité? Alors justement, pas avec du nucléaire dans les 15 ans qui viennent, parce on ne peut pas construire une centrale nucléaire qui sera prête avant 10-15 ans. Et donc d'ici là, on aura besoin d'électricité. Donc il faut faire des renouvelables et beaucoup d'énergie renouvelable.
Donc ce matin, j'entends que vous nous dites qu'on ne peut pas se passer du nucléaire.
Et pour après 2035, eh bien, si on a besoin de nucléaire, eh bien, il faudra qu'on ait plus de possibilités dans notre besace. Et c'est pour ça qu'on lance des recherches sur de nouveaux réacteurs.
Il y en aura combien de ces petits réacteurs ?
Ah mais je vous dis, là on en est au stade de la R&D.
De la recherche et développement.
De la recherche et développement. Ce qu'on veut, c'est ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et donc, si on a besoin de nucléaire, il va y avoir la RTE qui va faire un rapport avec des scénarios à 2050 pour voir quelles sont les diverses possibilités qui s'offrent à nous. Si jamais on doit choisir de refaire du nucléaire, donc à partir de 2035-2040, hein, c'est pas avant qu'on pourrait, il faut qu'on puisse choisir entre plusieurs options pour ne pas être coincé avec un scénario qui ne serait pas faisable.
Quid des EPR, Barbara Pompili, la construction d'EPR, c'est dans les tuyaux ça? Parce que quand on entend Agnès Pannier-Runacher, qui est votre collègue de l'industrie, elle dit « lorsque l'EPR de Flamanville sera livré, nous devons prendre des décisions de construire de nouveaux EPR, peut-être nous la prendrons un peu en avance ». Lorsque nous serons sûrs que l'EPR de Flamanville sera sur la bonne voie. Donc c'est dans les tuyaux.
En fait, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant. D'ici 2035, il faut qu'on développe massivement les renouvelables parce qu'on a besoin d'électricité. Je ne plaisante pas là-dessus. Si on ne fait pas ça, dans les 10 ans qui viennent, on risque soit le blackout, soit d'avoir besoin de réouvrir des centrales à charbon ou d'importer du charbon ou du gaz, ce qui serait très mauvais pour nos émissions de gaz à effet de serre. Donc dans les 10 ans, j'insiste, énergie renouvelable. Après, il y a un choix à faire, et ce choix, nous allons le faire sur la base de scénarios qui sont proposés par RTE, où on va nous dire combien ça coûte.
Mais si le choix, ce sont les EPR,
Ce choix-là devra être fait entre plusieurs technologies différentes.
Ce sera un choix que vous accepterez.
Encore une fois, le président de la République ne veut pas se retrouver contraint à devoir choisir une technologie parce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions.
Mais vous, Barbara
Pompili,
vous...
Et voilà pourquoi on fait des de la recherche et développement sur d'autres types de réacteurs. Donc, attendons un petit peu de voir ce que tout ça va donner pour pouvoir ensuite dire ce qu'on va faire. Mais si on a besoin de nucléaire, il faudra utiliser tout ce qu'on a en magasin.
Emmanuel Macron avait repoussé l'objectif de 50% du nucléaire dans la production d'électricité de 2025 à 2035. Donc, avec les nouvelles ambitions nucléaires du président, est-ce que cet objectif de 2035, il va être repoussé ou est-ce qu'il reste à 2035 ?
Non, nous avons une feuille de route qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle dit bien que nous devons passer à 50% de nucléaire dans le mix électrique en 2035. Et donc, on va mettre en œuvre cette feuille de route parce que ça nous permet aussi de gérer nos centrales qui sont en train de vieillir. Donc, on fait ça, mais en parallèle, on développe beaucoup les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, parce que nous en avons besoin pour faire face à la demande qui va augmenter.
Et j'ai une autre question. Emmanuel Macron, en 2018, a annoncé la fermeture de 14 réacteurs. Est-ce qu'on est toujours sur cette trajectoire ?
C'est la trajectoire qui est dans la PPE et c'est celle que l'on doit tenir si on veut réussir à tenir tous les fils, hein, si vous voulez.
Greenpeace affirme dans un communiqué publié hier que le gouvernement français a repris en toute discrétion son trafic de déchets radioactifs vers la Sibérie. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, sur ces questions de déchets, c'est très sérieusement encadré par des législations nationales et internationales.
C'est pas pour s'en débarrasser.
Non, mais nous avons un certain nombre de déchets qui sont des déchets issus du retraitement. Ces déchets issus du retraitement, ils font l'objet d'une réflexion sur est-ce qu'ils terminent leur vie de déchets, et dans ces cas-là, ils iraient certainement dans les projets comme CIGEO, soit on essaye de réutiliser ces déchets pour en faire un nouveau combustible. Pour l'instant, on est encore en train de travailler sur ces questions-là. Mais encore une fois, tout ça est très sérieusement encadré. Et moi, je ne laisserai pas faire quelque chose qui ferait prendre des risques à l'environnement, notamment en Russie.
Barbara Pompili, face à la flambée des prix du carburant, hier à l'Assemblée, vous avez appelé les distributeurs à faire un geste. Vous leur dites « réduisez vos marges pour faire baisser les prix à la pompe ». Et pourquoi vous ne baissez pas les taxes, vous ?
Alors, sur ce sujet, nous ne laisserons pas tomber les Français. Nous l'avons montré sur la hausse des prix du gaz et la hausse des prix de l'électricité. On met en place un bouclier pour que les Français soient protégés. Donc, ne laissons pas dire qu'on ne prend pas nos responsabilités dans l'urgence. On n'est pas tout à fait sur la même chose sur la hausse des carburants. On est sur une hausse qui est moins forte. Des projections que nous avons, je reste prudente, on ne sera pas du tout dans des hausses, des envolées comme on a eu sur les prix du gaz et sur les prix de l'électricité. Donc on regarde de près. Là pour l'instant c'est le 1 centime de plus qui a fait que tout a explosé.
Mais c'est à quel niveau vous dites ah ben là on va baisser les taxes ?
Moi je vous dis pas on va baisser les taxes, on va pas baisser les taxes. Je vous dis qu'on est en train de regarder quelle est la solution immédiate, la plus efficace pour aider les Français. Mais je vous rappelle qu'on peut prendre des mesures là tout de suite pour aider dans l'urgence, mais que ça montre encore une fois qu'on est très dépendant du pétrole et du gaz, et qu'il faut que les mesures à plus long terme, changement de voiture, travail sur la mobilité, soient faites pour qu'on ne soit plus dépendant à chaque fois que les prix du pétrole montent.
Rapidement, c'est pas facile de faire appliquer la féminisation des titres. Vous avez eu une passe d'armes avec Julien Aubert, le député LR à l'Assemblée. Il vous a appelé Madame le ministre. Vous lui avez répondu Monsieur la rapporteure. C'est pas du meilleur effet, non, pour défendre son titre ?
Je voulais montrer à quel point on était dans l'absurde.
Mais justement, pourquoi vous n'avez pas laissé filer cette provocation ? C'est lui qui est ridicule.
Parce que, en fait, il s'avère que ça faisait plusieurs. Je l'avais déjà appelé comme ça à plusieurs reprises. Là, ça a choqué une présidente de séance. Il n'y a pas de petit combat pour le féminisme. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais ça montre encore une fois que quand on est une femme, quand on veut se faire respecter, parce que c'est une question aussi de respect. J'avais demandé à plusieurs reprises qu'on m'appelle par mon titre normal. Je n'ai pas été respectée.
Il n'y est pas obligé.
Si, figurez-vous qu'il y a une instruction du bureau à l'Assemblée nationale qui dit qu'il faut respecter la parole des femmes, ce qui est quand même assez grave, c'est qu'on doive le marquer quelque part.
Merci Madame la Ministre Barbara Pompili.
Et cet entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site RTL.fr. Barbara Pompili, vous restez avec nous. Philippe Cavrivière entre en studio pour son œil de l'actualité.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Barbara Pompili est restée pour votre chronique.
Eh bien, ça fait plaisir de voir une ministre de l'écologie qui a l'air en forme. Et ça nous change de Nicolas Hulot, l'égérie coiffure dépressif, et de François de Rugy, hein, l'ami des crustacés. Comment qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est comme François Feldman, on n'a plus trop de nouvelles de ces deux-là. Dis donc, parenthèse, hier soir, je suis tombé sur l'interview des journalistes d'Ave et l'Homme, les deux tueurs là, qui ont exécuté François Hollande. Ils affirment dans leur nouveau bouquin, je cite, « Macron s'entoure de tocards pour ne pas être trahi à son tour. Personne n'est ministre. » Non, pop, excusez-moi. Pardon, il ne parlait pas de vous, Barbara. Par contre, Barbara, si vous avez un nom de tocard qui vous vient spontanément parmi vos collègues ou supérieurs, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Hein, priorité au direct, comme
bien
on dit,
sûr.
Sur BFM. En tout cas, Barbara, vous vous battez pour imposer le thème de l'écologie. Et ça, c'est noble, car ça marche moins que l'immigration dans les médias. C'est étrange, l'immigration, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen. L'écologie, c'est DiCaprio et Marion Cotillard. C'est quand même plus glamour, Léo et Marion.
Oui.
En plus, un panda... C'est mignon, c'est plus mignon qu'un migrant. Objectivement, un panda, on a tous envie d'en prendre un à la maison. Un migrant, moins. Chérie, j'ai ramené un panda pour les enfants.
Alors que...
Chérie, j'ai ramené un migrant pour les enfants.
Vous voyez ? C'est PFD. C'est la preuve.
Bon, écoutez, vous trouvez, Philippe, que les Français ne s'intéressent pas assez au thème de l'écologie, alors ?
Disons qu'on n'est pas les premiers. Les pays les plus écolos, c'est l'Islande, le Danemark, la Norvège. Un pays comme l'Afghanistan, je leur pardonne. Je comprends que ce ne soit pas leur priorité. Quand tu passes ta journée à éviter que les barbus te jettent des cailloux, forcément, le tri sélectif, le petit vélo pour aller bosser ou faire ton potager bio, ça passe peut-être derrière le souhait de rester en vie, j'imagine.
En tout cas, on aimerait avoir votre avis sur le nucléaire et sur les éoliennes en France.
Alors, concernant les éoliennes, oui. Je suis pour. Mais seulement dans les endroits où c'est déjà moche, comme par exemple Roubaix ou Sochaux.
C'est notre zone d'écoute. Là,
ben ils le savent que c'est moche, j'ai vécu là-bas, attention. Ah bon. Là, on peut y aller Roubaix, Sochaux, mettez-en plein, ça ne peut pas être pire. Quant à le nucléaire, hein, 53% des Français y sont favorables, oui. 47% y est opposés. Et ça, c'est fascinant de constater que les Français ont un avis. Pendant le Covid, on était tous épidémiologistes. Oui. Et là, on a tous un avis très tranché sur la fusion thermonucléaire. Ça se demandait comment ce pays va si mal avec autant d'intellectuels à l'intérieur. En tout cas, je tiens à saluer une magnifique victoire de votre ministère. On peut quasiment dire que la planète est sauvée, car dès le 1er janvier 2022, une trentaine de fruits et légumes ne pourront plus être vendus dans un emballage plastique. Mmh. C'est le cas du poivron, de l'aubergine et de la courgette. Alba n'en a pas parlé, c'est une impasse d'Alba. Ben c'est ça aussi l'écologie, c'est pas que des inventions à la Elon Musk, hein. C'est aussi des petites victoires, c'est aussi ne plus se mettre la courgette sous plastique.
En tout cas, Emmanuel Macron parle de la France à l'horizon 2030. C'était le rôle de François Bayrou, son commissaire au plan, d'imaginer la France d'après-demain, normalement, non ?
Ah ben voyons, on cherchait un nom de tocard depuis le début. Vous l'avez trouvé, François Bayrou. Alors pourquoi Emmanuel Macron lui a-t-il confié cette mission ? Je prends un exemple tout bête. Quand vous avez un enfant pénible et que vous voulez la paix, vous lui dites « Tu voudrais pas me faire un beau dessin ?» Et là, vous êtes peinard pour 3 heures. Macron, il a demandé à Bayrou de lui dessiner la France dans 30 ans. Il est peinard pour un moment. Et tu le colorises sans dépasser, François. Hein, puis tu me fais un beau soleil. Il avait fait pareil à Borloo pour la banlieue.
En tout cas, le prix du diesel en France a atteint un niveau jamais égalé. Il a même dépassé le prix qui avait provoqué la colère des Gilets jaunes en 2018.
Ça sent le retour des Gilets jaunes. En plus, ils ont déballé l'Arc de Triomphe, ça peut les exciter. En tout cas, le diesel devient une bonne idée cadeau pour les fêtes.
Essence 98. For men, the new fragrance.
Il y a trop de pubs, on a la bourre après.
Philippe Cabrivière, dans un instant, le journal de 8h sur RTL. Merci à vous tous de nous écouter. RTL. Ils ont là. RTL, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, le cri d'alarme des pédiatres face à l'explosion des cas de bronchiolite.
En Ile-de-France, notamment, les services pédiatriques sont déjà submergés. Les experts s'attendent à une vague bien plus virulente que les autres années. Pour quelles raisons ? Que faire en cas de symptômes ? Nous allons en parler avec notre spécialiste dès le début de ce journal. C'est le fait divers qui passionne l'Amérique depuis des semaines. La mort de Gabby Petito, cette jeune fille morte étranglée, son petit ami et le suspect numéro 1. Nous allons y revenir. Nous évoquerons également le congrès des Républicains auquel participera finalement Xavier Bertrand. Et si le pire était à venir, cette bataille entre prétendants pour le poste de candidat s'annonce houleuse. Ce sera le décryptage ce matin de la brigade RTL. Et puis nous irons faire un tour à l'abbaye de Fontfroid dans l'Aude, décor du dernier film de Ridley Scott aujourd'hui au cinéma. Une vraie fierté locale.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
Le discours fleuve d'Emmanuel Macron hier, on n'a pas tout compris, mais on a retenu l'essentiel.
On vous retrouve à la fin du journal.
RTL Matin.
C'est donc une vague de contamination inédite par sa précocité. Jamais les cas de bronchiolite n'ont été aussi importants, aussi tôt dans l'année. Habituellement, les services d'urgence pédiatrique connaissent leur première tension mi-novembre. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Comment expliquer cette accumulation de cas ? Nous ne sommes que le 13 octobre aient déjà des lits de réanimation occupés.
Eh bien, l'hiver dernier, en raison des confinements et des gestes barrières anti-Covid, ce virus a beaucoup moins circulé que d'habitude. Les enfants ont donc été moins infectés et sont moins immunisés. Le Conseil scientifique note ainsi un déficit d'immunité collective significatif pour les bébés nés après mars 2020. Depuis début septembre, Santé publique France observe d'ailleurs une augmentation des passages aux urgences. Un peu plus de 1200 pour la dernière semaine de septembre, contre environ 700 lors d'une année normale à la même époque.
Les symptômes, Odile, on les rappelle ?
Un simple rhume au départ, puis une toux, une respiration difficile, rapide, sifflante, très angoissante pour les parents. Cette maladie qui touche en majorité les enfants de moins de 2 ans et la plupart du temps bénigne. Il faut bien sûr consulter son médecin qui prescrira dans certains cas des séances de kiné. Mais si votre bébé a moins de 6 semaines ou s'il était prématuré, s'il boit moins de la moitié de ses biberon à 3 reprises consécutives, eh bien, il faut aller aux urgences. Un dernier conseil, il ne faut pas emmener de bébé de moins de 3 mois dans une grande surface. Et les bisous sont à proscrire. Un rhume chez un adulte peut donner une bronchiolite chez un petit.
Merci pour toutes ces précisions, Odile Pouget.
La prolongation du pass sanitaire au menu du Conseil des ministres tout à l'heure. Hein.
La loi prévoit, je vous le rappelle, pour l'instant, la fin du pass obligatoire le 15 novembre prochain. Mais le gouvernement souhaite prolonger la possibilité d'y avoir recours jusqu'au 31 juillet. Ça fait loin, alors même que tous les indicateurs Covid, et c'est tant mieux, sont au vert. Olivier Bost avec nous, éditorialiste RTL. Olivier, on ne comprend pas bien pourquoi prolonger aujourd'hui et aussi loin alors que la situation sanitaire ne semble pas vraiment l'imposer.
Oui, mais si l'épidémie repart, si nous subissons une cinquième vague, le gouvernement veut garder cet outil pour imposer des restrictions. Sur le plan politique, il ne veut pas avoir à reconvoquer le Parlement, lieu de débat en pleine campagne présidentielle. La deuxième raison, c'est que le pass sanitaire reste le seul moyen aujourd'hui d'inciter les Français à se faire vacciner sans assumer de rendre la vaccination obligatoire, même si ce principe montre ses limites. Ceux qui ne vont pas au bistrot, au restaurant, au cinéma ne sont pas concernés.
Le pass sanitaire devait être temporaire, non ? C'était pas l'engagement du ministre de la Santé ?
Oui, mais comme tous les états d'exception, il est bien plus facile d'y entrer que d'en sortir. Il se passe exactement en fait ce qui s'était produit pour l'état d'urgence après les attentats de 2015. Ces restrictions de liberté qui durent ont été vertement critiquées par le Conseil d'État la semaine dernière. Elles le seront aussi par les oppositions au Parlement, ça c'est sûr, le gouvernement n'y échappera pas.
Merci Olivier Bost.
RTL, il est 8h05, ce chiffre à présent que vous dévoile ce matin notre radio. Chaque jour, une cinquantaine de viols sur mineurs sont signalés à la gendarmerie et à la police.
Et c'est toujours un acte délicat pour les policiers et les gendarmes confrontés à ces situations et pas forcément préparés à recevoir la parole d'un enfant. La formation, justement, c'est le rôle du capitaine Breton. Il s'en est expliqué avec Alice Moreno.
C'est un acte d'enquête très compliqué, qui ça met un enquêteur dans une position difficile. Il faut s'imaginer qu'un enfant qu'on ne connaît pas, 20 minutes après, on va parler avec lui de sexualité. Mmh. Si on faisait ça avec un adulte, vous imaginez que vous ne connaissez pas. 20 minutes après, vous devriez décrire un acte sexuel, violent. Puis il y a la sidération, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment va se passer une audition avec un enfant. Et il y a des enfants qui vont vous prendre aux tripes pour des raisons diverses, pas liées aux faits, mais liées à leur angoisse, à leur comportement, et qui font que y a une charge émotionnelle qui est importante. Il est très important, pendant ce temps-là, l'enquêteur qui soit suffisamment à l'aise dans sa pratique pour pas simplement obtenir une parole qui est « il m'a fait du mal », mais vraiment un nombre important d'informations sur la commission des faits.
Propos recueillis par Alice Moreno et vous pouvez retrouver sur notre site internet rtl.fr en longueur le reportage d'Alice sur ses stages de formation de la police judiciaire chargée d'enquêter sur les abus sexuels. Le lycéen qui a violemment bousculé l'une de ses profs à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Deux autres ados soupçonnés d'avoir filmé et diffusé eux les images de l'agression seront présentés à un juge des enfants.
Dans un instant, les Républicains prêts à s'engager dans la bataille pour désigner leur candidat. Xavier Bertrand est donc rentré au bercail, mais vous allez l'entendre, tout n'est pas réglé pour autant. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous, il est 8h07.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. À droite, c'est une nouvelle campagne qui démarre chez les Républicains après la décision avant-hier de Xavier Bertrand de participer finalement au fameux congrès.
C'est aujourd'hui que les prétendants doivent déposer leur candidature auprès du parti. Ils sont donc 6 au départ, 5 hommes, une femme. À la fin, il n'en restera qu'un ou qu'une. Le congrès et la bataille qui s'annonce dans les prochaines semaines à droite, c'est le choix ce matin de la brigade RTL. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
D'abord, ce congrès, en quoi est-il vraiment différent d'une
primaire.
Eh bien, vous avez raison de vous poser la question, Dominique, car c'est exactement la même chose. Un vote pour départager plusieurs candidats. Ce qui change, ce sont les électeurs, le corps électoral. Oubliez le scrutin ouvert aux quatre vents, façon 2016 et ses 4,5 millions de votants. Cette fois, seuls les adhérents LR peuvent aller aux urnes. En clair, on est bien en famille et on y reste. Alors, si vous brûlez d'envie de participer à ce congrès, réjouissez-vous. Vous avez jusqu'à mi-novembre pour prendre votre carte pour la coquette somme de 30 euros, 10 euros seulement après défiscalisation. Autant vous dire que les candidats vont se démener pour faire adhérer leurs amis et les amis de leurs amis.
Alors, Xavier Bertrand, ça y est rentré dans le rang. Après, on le rappelle, avoir quitté LR il y a bientôt 4 ans. Je vais vous faire écouter la réaction de quelques militants pas toujours tendres.
Quitter LR, c'est mettre en difficulté le parti. Et aujourd'hui, il revient comme une fleur. Je veux participer au congrès. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter.
Il n'a pas tout à fait le poids pour devenir président.
Bon, j'ai comme l'impression que c'est loin d'être gagné pour Xavier Bertrand.
Et oui, car tous les candidats vont sortir le grand jeu pour charmer les militants, mais avec un gros malus pour ceux qui ont quitté le parti, vous l'avez entendu, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. La rupture a laissé des traces. Il faudra faire la différence, et pour cela, il y aura le ou les débats télévisés. D'après une information RTL d'Aurélie Herbemont, Xavier Bertrand lui-même est prêt à y participer, même si certains élus LR redoutent un remake des débats de 2016, du genre on s'étripe entre nous face caméra. Dixit un cadre.
Marie, le vote aura lieu à partir du 1er décembre et l'issue paraît très ouverte.
Et oui, car chacun a une carte à jouer. Pour Michel Barnier, celle de la fidélité, de celui qui n'a pas quitté le navire même quand il prenait l'eau. Pour Xavier Bertrand, celle du vote utile. En clair, vous voulez gagner en 2022, alors votez pour moi, je suis le mieux placé. Et entre les deux, Valérie Pécresse devra trouver un chemin, même étroit.
Et nous suivrons ça évidemment sur RTL, la brigade ce matin avec Marie Mollet. Merci beaucoup Marie. Cette peine très lourde requise pour la première fois contre un ministre en exercice, en l'occurrence Alain Griset, chargé des PME et jugé pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine. 10 à 12 mois de prison avec sursis ont été requis par le procureur et 3 ans d'inéligibilité, ce qui l'obligerait à quitter immédiatement le gouvernement.
C'est l'affaire qui passionne l'Amérique depuis cet été, la disparition d'une voyageuse, star des réseaux sociaux, Gabrielle Petitot.
Alors qu'elle faisait un voyage en van à travers les États-Unis avec son compagnon, lui est rentré sans elle avant que le corps de la jeune femme de 22 ans ne soit retrouvé. Son fiancé fait figure de suspect numéro 1, d'autant qu'il est introuvable. Lionel Gendron, vous suivez pour nous cette affaire dont l'écho médiatique ne cesse de prendre de l'ampleur aux États-Unis et encore davantage depuis que l'autopsie a révélé hier que la jeune Gabi avait été étranglée.
Oui, il n'y avait pas beaucoup de doutes, mais le médecin légiste le confirme, ce n'est pas un accident. Gabi Petitot a bien été tuée. Le principal suspect est son fiancé avec qui elle voyageait en camping-car. Le 1er septembre, ce dernier, Brian Landry, rentre chez ses parents avec le van du couple, mais sans la jeune femme de 22 ans. Quelques jours plus tard, il disparaît. Depuis, toute l'Amérique suit cette chasse à l'homme. La police le cherche dans un parc marécageux infesté d'alligators, dans des montagnes où il serait parti en randonnée. Des centaines de milliers d'internautes proposent des pistes. Des chasseurs de primes tentent leur chance avant d'abandonner. Brian Landry est bien caché ou mort et la surexposition médiatique est un mystère pour des associations. Elle rappelle que chaque année aux États-Unis, près de 2000 femmes sont tuées par leur conjoint ou un homme de leur entourage.
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. McDonald's France soupçonné d'avoir recours à des enfants pour faire de la publicité déguisée. Ça se passe sur les réseaux sociaux où de jeunes internautes très suivis n'hésitent pas à faire la promotion du fast-food, de ses menus, de ses jouets, sans mentionner bien sûr le bilan calorique. L'UFC Que Choisir estime qu'il s'agit là d'un message publicitaire dissimulé et porte plainte devant le tribunal judiciaire de Paris.
8h14, le patrimoine occitan est à l'honneur à l'occasion de la sortie du dernier film de Ridley Scott.
Oui, car c'est à l'abbaye de Fontfroide, près de Narbonne, que le réalisateur américain a choisi de tourner une partie de sa dernière super production, The Last Duel, ce mercredi dans les salles. Le tournage a eu lieu en mars 2020, quelques jours avant le confinement, dans cette merveille architecturale nichée au cœur de 4000 hectares de paysages préservés. Patrick Hisson s'y est rendu pour RTL.
Le cloître de l'abbaye de Fontfroide résonne encore des dialogues que n'est pas prêt d'oublier Rogier Fakeldé, l'un des responsables du lieu.
C'est ici qu'a été tournée la première scène du film de Last Duel, avec notamment Matt Damon et Jodie Comer qui apparemment sont en vive discussion ici dans ces lieux historiques de Fontfroide.
Je réclame un duel judiciaire.
Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences.
Jusqu'à 400 personnes ont été réunies durant le tournage à l'abbaye de Fontfroide qui n'avait jamais reçu une telle production. production.
Voilà, on a touché le Graal un petit peu du cinéma avec Ridley Scott. Ce sont des moments impérissables qu'on va retenir certainement toute notre vie. Matt Damon se laissait prendre en photo avec ceux qui étaient présents, manger à la cantine avec l'équipe technique. C'est assez impressionnant à voir.
Impressionnant comme le seront sans doute les retombées pour Fontfroide, une abbaye où a été décidé grâce au cinéma ce duel dont personne ne connaît pour l'instant le vainqueur.
Ce sera tout l'intérêt d'aller voir ce film pour voir finalement qui va gagner ce dernier duel judiciaire prononcé en France au XIVe siècle.
Patrick Hisson pour RTL. Et cette dernière minute à l'instant, la ministre des Armées Florence Parly annonce la mort d'un soldat français au Mali à la suite d'un accident lors d'une opération de maintenance à Tombouctou.
Nous y reviendrons bien entendu dans le point de l'actualité à 9h. On vous retrouve à cet horaire. Notre météo, Louis Baudin.
Oui, avec toujours du temps sec aujourd'hui sur la France. Alors il y a souvent beaucoup de nuages bas, quelques brouillards le matin, mais tout ça finit par se dissiper. Alors c'est vrai qu'il restera quand même quelques nuages cet après-midi près des frontières du Nord-Est, près de la frontière belge ou encore Lorraine, Alsace, mais sans conséquence. Un peu plus de nuages également autour du Massif central, un peu de mistral et de tramontane autour du Golfe du Lion jusqu'à 70 km/h et ailleurs donc beaucoup de soleil. Les températures, on sera entre 12 et 14 degrés cet après-midi, pas plus en Lorraine, Alsace, Franche-Comté, 15 à 19 degrés ailleurs et un peu plus de 20 degrés encore près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin. Cyprien Signy dans un instant sur RTL avec son surf de l'info. Et Emmanuel Macron,
bah bien sûr.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Cyprien, vous surfez avec le grand discours France 2030 du président Macron.
Un régal. Oula. Plus de 2 heures d'Emmanuel Macron, seul en scène pour nous parler de...
La stratégie France 2030.
Oui, et après France relance, France 2030, le monde d'après, le monde de demain, notre futur, quoi. Et alors, je ne vais pas vous mentir, hein. Comme d'habitude, j'ai pas tout compris, c'est sans montage.
Quand on se désindustrialise, on perd de la capacité à tirer de l'innovation dans l'industrie, et donc de l'innovation... même incrémentale, et c'est celle-ci qui nourrit le dialogue avec l'innovation de rupture. C'est un continuum, tout se tient. Beaucoup plus que les débats ne l'avaient montré jusqu'alors.
Voilà. Après, ce qui est certain, c'est que dans la France de 2030, il y aura plein de choses en sion.
Transition de décarbonation, la digitalisation et la robotisation en modernisation, la révolution, la mécanisation.
Et aussi tout plein de choses en hic.
Le numérique, la robotique, la génétique, technologique, chronique, oligopolistique et photovoltaïque, chimique, enzymatique, tout est électronique, jusqu'aux ordinateurs quantiques.
Évidemment, ça va être super pratique, sans oublier qu'on pourra compter sur des...
Small Modular Reactors, 2 gigafactories d'électrolyseurs. Nous dépasserons largement l'objectif de 25 licornes pour 2025. Donc j'ai compris que certains veulent aller au décacorne maintenant. Et moi, je suis totalement pour.
Nous aussi, formidable les décacornes. Hein. Vous aussi, les gigafactories d'électrolyseurs, on prend aussi, on valide direct. Bon, après... Il n'a pas parlé que du futur, le président. Non, bizarrement, il a aussi un peu parlé du passé, mais récent, le passé. Hein. Genre depuis qu'il est président, quoi.
On ne part pas de nulle part. Nous avons, depuis 4 ans, produit des résultats qui sont très tangibles. Je ne veux pas ici égrainer les choses.
Ah bah non, surtout non, pas. Non, il peut en profiter pour faire son bilan. Quoique quand même. Hein.
La France est redevenue depuis 2 ans le pays le plus attractif d'Europe. La France recrée des emplois industriels alors qu'elle en détruisait depuis 2008. La France a un niveau... d'emploi qu'elle n'avait pas connu depuis 15 ans.
Oui, mais alors, surtout... Hein.
Je ne veux pas ici égrainer les choses.
Non, c'est pas le moment. Hein.
On s'est mis à réinvestir sur la recherche et l'enseignement supérieur. On se remet à reproduire du paracétamol en France. Les résultats sont là.
Oui, mais alors, surtout, ce n'est pas l'endroit pour amorcer sa campagne.
Je crois que depuis 4 ans, on a montré qu'on savait consolider les comptes publics sans détruire de la croissance et en baissant même les impôts. Ce qui est exactement la trajectoire macroéconomique qui est suivie depuis 2017.
Depuis 2017, tiens, comme par hasard, comme quoi, finalement, même en parlant du futur, à 6 mois d'une présidentielle, c'est compliqué de ne pas en profiter pour vendre un peu son passé.
Vous reprendrez bien un petit Doliprane.
Un petit Doliprane fabriqué en France.
Oui, bien sûr, fabriqué en France. Merci Cyprien Sidi, rendez-vous à 18h40 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
À ce soir.
Dans un instant, l'histoire vraie d'un journaliste infiltré dans la police. Il est avec nous pour raconter en avant-première son histoire sur RTL. Engagé comme policier, il est témoin de faits graves qu'il dénonce et qui lui ont valu d'être auditionné par l'inspection générale de notre police nationale. On en parle dans un instant avec Valentin Gendron.
Calvi.
RTL Matin.
Il est 8h25. Bonjour Valentin Gendron.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. On vous reçoit ce matin à l'occasion de la sortie demain de votre enquête intitulée Flic, l'histoire vraie du journaliste qui a infiltré la police aux éditions de la Goutte d'Or. Alors votre livre choc était initialement une enquête en immersion. Elle est devenue une bande dessinée. Pourquoi ?
C'est le fruit d'une rencontre avec Thierry Chavant, qui est dessinateur et qui est spécialisé dans les enquêtes journalistiques. On s'est rencontrés à la fin de l'année dernière, à la fin 2020, et ça nous a paru évident d'adapter mon infiltration dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris, et d'en faire aussi un objet autonome, c'est-à-dire de créer aussi un monde propre dans cette bande dessinée.
Comment vit-on avec une arme à la ceinture, Valentin Gendreau ?
Alors les premiers jours, c'est un poids de 900 grammes et vous le sentez vraiment, ce poids-là. Et puis petit à petit, vous oubliez finalement que vous avez une arme à la ceinture.
Il faut préciser que votre enquête a déclenché une autre enquête, celle de l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale. Vous faites remarquer que cette profession considérée comme la plus contrôlée de France, eh ben, ces contrôles sont d'une certaine façon artificiels. Expliquez-nous.
Artificiel dans le sens où vous avez un certain nombre de contrôles, vous l'avez dit, mais vous avez aussi un certain nombre de violences policières qui restent sous les radars. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous allez avoir de traces écrites sur les ondes radio de la police, ni de traces sur les logiciels écrits de la police nationale. Et vous avez un certain nombre de violences qui peuvent se passer devant des cellules de garde à vue, dans des fourgons de police. Ce qui se passe dans le fourgon reste dans le fourgon, c'est-à-dire que les policiers qui sont sur place et qui sont... témoins de violences policières, par exemple, ne vont rien dire. Donc malheureusement, tous ces contrôles-là ne servent pas à grand-chose.
Allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus choqué ? Quand on vous lit, on pense d'abord au racisme. Est-ce que c'est bien cela ?
Oui, effectivement, le racisme, c'est une donnée qui est importante, mais il faut aussi mesurer le propos, dans la mesure où, sur les 32 policiers avec lesquels je pouvais travailler dans le commissariat du 19e arrondissement, 5-6 policiers étaient violents, racistes, et ça de manière récurrente. Les autres ne le sont pas.
Ils interviennent, enfin, ça crée des tensions entre policiers, pour le coup ?
Non, ça crée pas de tensions, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. La majorité de ces policiers-là, qui ne sont pas racistes et pas violents, sont témoins, ne disent rien, parce qu'on est dans un monde très corporatiste, où, parce qu'on fait un métier difficile, un métier à risque, on va se montrer solidaires les uns les autres. Et malheureusement, du coup, ces comportements-là, minoritaires, peuvent perdurer.
Donc le silence, d'une certaine façon, s'impose face aux ultras, c'est ça ?
En gros, c'est ça, oui.
Vous décrivez un manque de formation hallucinant pour ces 12 000 policiers formés à la va-vite chaque année sur les 146 000 policiers que compte notre pays. Je cite vos chiffres. Quoi ? On les balance du jour au lendemain dans la rue ?
On les balance en 3 mois dans la rue. On les balance en 3 mois avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique, avec un certain nombre de trous dans la raquette concernant la formation. Les violences conjugales, par exemple, cette formation-là est abordée en 3 heures seulement. Et dans les 3 heures, vous avez 2 heures consacrées à la diffusion du film Mon Roi de Maïwenn avec Vincent Cassel. Mmh. Ensuite, débrouillez-vous. Voilà.
J'aimerais évoquer avec vous votre expérience et votre regard sur le trafic de drogue et sur les tentatives de la police pour y mettre fin. C'est un sentiment d'impuissance qui domine et dont vous rendez compte. Expliquez-nous.
Je peux vous donner l'exemple de ce qui peut se passer à Stalingrad, ou ce qui se passait quand moi j'y étais dans le 19e arrondissement. Les policiers sont à la recherche de chiffres. Donc en fait, quand vous allez interpeller quelqu'un qui va avoir 10 euros ou 20 euros de shit sur lui, vous le placez en garde à vue. Sauf qu'évidemment, vous restez à la surface d'un trafic qui existe, qui évidemment est souterrain. Mais vous ne pouvez pas endiguer un tel phénomène en arrêtant simplement les petits revendeurs.
On ne cesse de mettre en avant la déconnexion entre la hiérarchie et la base. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, vous l'avez vécu.
Les policiers qui sont sur le terrain, ce sont des policiers qui sont pas ou peu gradés. Ceux qui sont gradés, capitaine, commandant, commissaire, ils sont dans les bureaux, ils sont dans des réunions, ils restent au commissariat. Donc évidemment, ils ne sont jamais sur le terrain et ce qui se passe sur le terrain, ils ne sont pas au courant.
Mais il y a une police des bureaux et une police de la rue, en fait.
Vous avez une police qui...
Et elles ne se parlent pas, elles ne se comprennent pas.
Bah, on se croise, mais quand vous avez des violences policières, par exemple, sur le terrain, les plus capés du commissariat ne sont pas au courant puisqu'ils ne sont pas présents.
À quoi ressemblent nos commissariats ? On a longtemps eu l'image de commissariats délabrés, en mauvais état, de policiers qui avaient des bagnoles qui tenaient pas la route, enfin bref. On a l'impression que ça s'est un peu amélioré, mais ça peut être une impression, voire quelque chose d'artificiel. Vous, votre expérience, elle se traduit par quoi ?
Le commissariat du 19e arrondissement, il a été construit, il me semble, à la toute fin des années 90 ou au début des années 2000, enfin il a 20 ans à peu près. Hein. Quand vous avez des averses plusieurs jours sur Paris, vous changez les pieds dans l'eau. Vous avez des toilettes qui sont pas réparées pendant plusieurs semaines. Vous êtes en patrouille, donc vous êtes au volant d'une voiture de police et la voiture tombe en panne parce qu'elle a été mal réparée, parce qu'on a fait des coupes dans les services publics. Donc ça, ce sont des données importantes. Et les policiers, évidemment, prennent de plein fouet ce genre de conditions de travail.
Une dernière question. Est-ce que vous comprenez la colère des policiers qui sont allés manifester devant l'Assemblée nationale ?
Je la comprends si c'est pour parler des deux gros tabous de la police. Les deux gros problèmes, ce sont le mal-être policier, donc là-dedans, les conditions de travail dégradées, on en a parlé, la question des suicides, mais vous avez aussi la question des violences policières. Je pense qu'il faut que les policiers, les syndicats de police, le ministre de l'Intérieur reconnaissent l'existence de violences policières et qu'on mette fin à ça, qu'on s'attaque vraiment à cette problématique-là, parce que le niveau de confiance de la population vis-à-vis de sa police, il me semble, baisse, le niveau de défiance augmente, et il faut condamner, sanctionner, révoquer les policiers qui posent problème. Les 5 ou 6 policiers de ma brigade qui posent problème, ceux-là, il faut qu'ils soient au moins sanctionnés.
Merci Valentin Gendreau. Flic, l'histoire vraie du journaliste qui a infiltré la police, sort donc aux éditions de la Goutte d'Or. C'est désormais aussi une bande dessinée. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
On passe à notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin.
Oui, avec du temps sec qui résiste encore sur la France, sous la protection d'un anticyclone. Alors, anticyclone à cette époque, ça veut dire aussi des nuages bas, des brouillards le matin, se dissipant plus ou moins rapidement l'après-midi, plutôt lentement dans les régions du nord-est, ou encore autour du Massif central aujourd'hui. Demain, c'est la même chose, avec toujours du temps sec, mais des passages nuages un peu plus nombreux le matin dans le nord, dans le nord-est, près des frontières. On aura peut-être même quelques bruines. Et puis au fil des heures, eh bien là aussi, on retrouve des éclaircies plus belles en cours d'après-midi, plus belles notamment dans l'ouest et dans le sud. On aura toujours du mistral de la tramontane près de la Méditerranée. Vendredi, là, dans la moitié nord, on aura une vraie dégradation temporaire avec des passages nuageux, voire quelques petites bruines par moment. Le sud restera un peu à l'écart. Les températures à peine de saison. Et puis pour ce week-end, bah, ça revient beau. Fera beau ce week-end, hein. Temps un peu frais pour la période, évidemment, avec parfois quelques gelées le matin. Mais l'après-midi, température entre 15 et 20 degrés dans la moitié nord et un petit peu plus dans le sud. Et puis la pluie, c'est après. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça arrivera après le week-end. La pluie reviendra en début de semaine, notamment dans la moitié nord.
Vous savez quoi? Ça ressemble à l'automne.
Oui.
Voilà. Non, mais c'est pas mal parce qu'il y a...
C'est rassurant. Moi,
il y a 4 saisons. Voilà. Et les saisons intermédiaires sont bien ce qu'elles sont.
Et oui, elles sont nécessaires.
Merci infiniment, Louis Baudin. Il est 8h32, RTL autour du monde dans un instant. On vous emmène en Italie. Le fascisme est-il de retour sur place? C'est la question qu'on va se poser.
RTL matin. RTL autour du monde.
RTL autour du monde, 8h34. Et cette question un peu brutale ce matin, le fascisme est-il de retour en Italie? Ce que vous entendez là, c'est la prise d'assaut samedi dernier du siège de la CGIL. C'est le principal syndicat en Italie, par des manifestants d'extrême droite. Ça se passe en plein cœur de Rome, des scènes très violentes qui ont fait le tour du pays d'ailleurs. En fait, c'est une manifestation contre le pass sanitaire qui a dégénéré. Bonjour Olivier Bonnel.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'RTL en Italie. Plusieurs arrestations ont eu lieu dans les rangs des militants d'extrême droite et l'Italie s'interroge clairement aujourd'hui sur la résurgence de groupuscules ouvertement fascistes.
Oui, et un groupe en particulier, Forza Nuova, un petit parti né en 1997 et qui gravite au cœur de la galaxie fasciste italienne. L'un de ses fondateurs, Roberto Fiore, connu depuis la fin des années 70 pour avoir appartenu à des groupes terroristes d'extrême droite. Le programme de Forza Nuova est sans ambiguïté, interdiction de l'avortement, blocage total de l'immigration ou encore abrogation des lois antifascistes. Les militants de Forza Nuova, qui sont parfois aussi des ultras des clubs de foot, n'hésitent pas à utiliser la violence et se heurtent régulièrement aux forces de police. Je vous propose d'écouter le journaliste Paolo Berizzi. C'est l'un des meilleurs spécialistes des groupuscules fascistes en Italie. Et pour lui, les violences de samedi dernier à Rome ne sont pas vraiment une surprise.
Pendant des années, on m'a dit que je m'occupais d'un sujet qui n'existait plus. On me disait que les fascistes étaient morts il y a 70 ans. En réalité, on s'est rendu compte un samedi d'octobre que les fascistes non seulement existent, mais qu'ils ont leurs escadrons. Et donc on a découvert des monstres que l'on ne voulait pas voir et qui aujourd'hui sont visibles aux yeux de tous. Les images de ce qu'il s'est passé à Rome nous ont raconté ce que l'on feignait de voir ou ce que l'on n'a pas voulu comprendre.
Et Paolo Berizzi qui raconte aussi que les groupes d'extrême droite comme Forza Nuova n'ont cessé ces derniers mois de capitaliser sur la colère d'une partie des Italiens au point, on le voit aujourd'hui, de s'infiltrer et même de déborder des manifestations plutôt pacifiques à l'origine.
Quel est l'avenir de ces groupes fascistes comme Forza Nuova dans le pays ?
Eh bien, le débat qui agite la péninsule depuis plusieurs jours, c'est de savoir si ces groupes seront dissous. C'est ce que souhaite le Parti démocrate, la formation de centre-gauche, qui a déposé une motion en ce sens. Mais les politiques restent divisées. C'est le gouvernement qui pourrait décider par décret de dissoudre Forza Nuova. En attendant, la société civile italienne, elle, se mobilise. Une grande manifestation antifasciste est prévue samedi prochain dans le centre de Rome à l'appel des syndicats.
RTL Autour du Monde en Italie ce matin avec Olivier Bonnel en direct de Rome. Merci beaucoup.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h37, ce matin Isabelle Choquet plongée dans les scellés judiciaires du tribunal de Marseille.
Un endroit d'ordinaire très secret, Yves, car il y a là de quoi équiper un bataillon d'infanterie, de quoi enfumer tout un terrier de renard. Mais le quotidien La Provence a obtenu l'autorisation de s'y promener à condition de ne pas dévoiler certains secrets. Ah. Nous voici donc dans une drôle de caverne d'Ali Baba, en plein cœur de Marseille. Derrière des portes blindées et sous alarme, 230 000 objets étiquetés et cachetés, entassés sur presque 2 km d'étagères. Une Rolex qui a fait chuter un trafiquant, une échelle qui a fait chuter un artisan qui n'y a pas survécu, une prothèse PIP encore emballée, des casques de moto, des plages arrière de voitures qui dépassent des cartons, des objets inanimés qui parfois s'animent. De temps en temps, la sonnerie d'un portable vient troubler la quiétude des lieux. Il y a tout ce qu'on peut imaginer et surtout un nombre de balles et brosses extraordinaire, dit la chef du service des pièces à conviction. Un service qui occupe 4 personnes à plein temps. Ces pros du rangement sont capables de localiser un objet en moins de 10 minutes, ce qui est un exploit. Oui. D'un côté, il y a les scellés délictuels, un joyeux bric-à-brac d'ordinateurs, d'outils de chantier, de dossiers médicaux et même des skis ou des vélos d'appartement saisis chez des cambrioleurs. Il y a aussi les scellés criminels, beaucoup plus surveillés, des presses hydrauliques pour conditionner les stupes, des massicots pour découper les faux billets. Et puis derrière une porte blindée, un arsenal absolument ahurissant. Des armes par milliers, des pistolets mitrailleurs, des fusils d'assaut, des armes de chasse qui, la plupart du temps, n'ont jamais vu la queue d'un lièvre, des lance-roquettes corses, yougoslaves, neutralisées heureusement, et même des stylos pistolets ou des cannes épées. Et puis il y a cette pièce rarissime, improbable, dans un carton barré du fameux scotch rouge, un sabre nazi ayant appartenu au chef de la SS, Heinrich Himmler, objet repéré et saisi par les gendarmes lors d'une vente en ligne. N'oublions pas la drogue, on n'en garde que des échantillons à chaque saisie, mais cela suffit à remplir une pièce entière, une pièce aux émanations puissantes. On y a mis un extracteur, mais il s'essouffle pour rien. Avant, on y entrait avec un masque, dit le personnel, mais il y avait du pot belge, la tête vous tournait quand même en quelques minutes. Les scellés, c'est le tonneau des Danaïdes. Certains objets ressortent, rendus à leurs propriétaires, exhumés pour analyse, vendus aux enchères aussi. Depuis 2017, ça a rapporté plus d'1,2 million, sans compter les voitures. 35 tonnes d'objets ont aussi été détruits sur ordre du parquet. Mais dans le même temps, une centaine de nouveaux machins arrivent chaque matin, apportés par les services d'enquête. Alors n'imaginez pas qu'ils débarquent à la volée avec leur barda, hein. Il faut prendre rendez-vous et en ce moment, il faut bien 2 mois pour obtenir un créneau. Certains objets prennent la poussière depuis les années 80. Il y a beaucoup de scellés dont on se demande ce qu'ils font là, explique le procureur adjoint. Le parquet, justement, tente de rationaliser. Il demande aux enquêteurs et aux juges de ne saisir que ce qui est vraiment utile à l'enquête. Mais le stock n'en finit plus de grossir. Dans ce bazar de malfaisants, une greffière a tout de même une tendresse pour une pièce de 2012 saisie à la Castellane. Une planche, légendée comme au musée, porte d'accès au vide sanitaire. Une porte qui ouvre aujourd'hui sur un trop-plein. Plongée dans l'inventaire du crime. Dossier à lire aujourd'hui dans la Provence.
Merci beaucoup Isabelle et à demain matin.
RTL, vous êtes comme ça.
Et nous partons ce matin en Haute-Savoie afin de mettre à l'honneur une entreprise hors du commun, la société Paccard. Elle fabrique des cloches depuis 1796. Oui, vous avez bien entendu, depuis près de 225 ans. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour Yves.
Serge Paccard, dont la fonderie est basée à Sevrier, sur les rives du lac d'Annecy, vient de décrocher son marché du siècle en réalisant une structure musicale de 63 cloches pour une grande université américaine.
Oui, l'université de Tampa en Floride, où Paccard va installer une Ars Sonora, sorte de carillon géant, qui permettra de jouer un véritable concert de cloches. Anne Paccard, de la société Paccard.
Alors là, c'est un record du monde. Les Américains sont très friands de records du monde. Donc c'est la plus grande Ars Sonora du monde, avec 63 cloches. La plus grosse cloche de l'ensemble pèse 2 tonnes et la plus petite 6 kilos. C'est le petit bébé qui est là. Parce que j'appelle ça les bébés cloches, elles sont tellement mignonnes. C'est vrai que ça fait un instrument qui a une belle tessiture et donc une belle étendue de notes. L'ensemble de la structure mesurera 32 mètres de haut. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça fait plusieurs étages quand même. Une réalisation dont on est très fier parce qu'elle est 100% française et j'irai même plus loin, c'est 100% savoyard. Et ensuite, tout ça, ça part, entre guillemets, en kit, par bateau, aux États-Unis pour être installé premier trimestre 2022.
Des petits marteaux actionnés par des moteurs ont été installés dans les cloches et tout est dirigé par un clavier. Olivier Allard, pianiste, effectue les derniers réglages.
C'est l'art de jouer les cloches par un clavier de piano. Voilà le clavier, je veux vous faire une démonstration.
Et la dernière génération des Packard a été sollicitée pour ce projet exceptionnel.
Oui, Thomas Packard, 24 ans, représente la 8e génération. Ingénieur de formation, il a conçu le système électronique qui va permettre d'actionner les cloches.
Pour piloter une cloche, on va avoir besoin d'un marteau. Donc ce marteau est placé dans la cloche. Et donc ce marteau est actionné par un moteur. Et ce moteur, il lui faut une alimentation électrique qui est fournie par notre carte électronique. Et donc on va avoir jusqu'à 4 moteurs pour actionner les plus grosses cloches. Ce qui fait qu'au total, on a 102 cartes pour contrôler chacun des moteurs et donc chacune des cloches. Et donc tout l'enjeu, c'est de régler correctement ces cartes électroniques pour que le ressenti du piano soit parfait, quoi, que quand on appuie fort, ça sonne fort, quand on appuie pas fort, ça sonne pas fort, et que la correspondance entre le toucher du pianiste et la réalité du marteau se fasse.
Voilà, et je vous propose, Yves, de terminer ce reportage par ce morceau musical joué avec les cloches Packard, qui va sûrement vous dire quelque chose, comme à tous nos auditeurs et auditrices.
Le savoir-faire de la Haute-Savoie qui résonne jusqu'aux États-Unis. Merci beaucoup Serge Puyot pour cette rencontre avec la famille Packard. On va retrouver Laurent Gérard dans un instant et Cyril Lignac qui va rendre petits et grands accros aux fenouilles. En tout cas, il l'espère.
RTL Matin,
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. 5 ans après, un président ne devrait pas dire ça, qui avait tant coûté à François Hollande, Gérard Davé et Fabrice Lhomme s'apprêtent à publier Le traître et le néant, une enquête à charge cette fois consacrée à Emmanuel Macron. Les deux journalistes ont interrogé plus de 100 témoins. Nous sommes en ligne avec l'un d'eux qui a préféré garder l'anonymat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ah, cette voix me dit quelque chose.
Aussi. Non, je ne suis pas celui auquel vous pensez. La preuve ce matin, ma cravate est bien droite.
Ouais. C'est vous qui avez inspiré le titre de ce livre, Le traître et le néant ?
Emmanuel m'a trahi. Le traître, c'est lui.
Et le néant, c'est qui ?
Ça, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont trouvé la deuxième partie du titre après l'une de nos conversations. Ouais. Car j'ai parlé à ces journalistes pendant tout mon quinquennat.
Faites attention, on va finir par savoir qui vous êtes.
Non ! Ah, zut !
Ah, mais que se passe-t-il ?
À force de crier, j'ai réveillé ma Juju.
Ah, bah voilà. Oh ! Bah. Qu'est-ce que se passe-t-il ?
Oh, c'est pénible ce machin là.
Ah bonjour Nicolas Sarkozy, vous pouvez décrocher, c'est pénible cette sonnerie vraiment.
Mais c'est pas mon téléphone, c'est le cadeau de ma juge.
Ah mais oui, votre bracelet électronique. Mais
chaque fois que je sors de chez moi pour me détendre les guiboles, ça sonne.
C'est normal, hein. C'est normal, vous êtes assigné à résidence.
Quelle indignité. Me condamner à passer 24 heures sur 24 avec ma Carlita qui gratouille sur sa guitare, qui chantouille des chansons qu'on comprend rien, c'est quasi de la torture. J'en appelle à la Ligue des droits de l'homme.
Vous n'exagérez pas un peu, là ?
6 mois. Encore 6 mois à purger. Et le pire, c'est pas ma mozzarella di bufala. Non, le pire, c'est la petite Julia. Elle m'oblige à jouer à Pokémon.
Ah, ben oui.
Ah mon Dieu.
Et puis elle a de qui tenir, la gamine. À chaque fois, elle essaye de m'arnaquer quand on échange les cartes. L'autre jour, elle voulait m'échanger un bulle bizarre contre un salamèche. Non mais franchement, j'étais à deux doigts d'appeler la Cocoé. Vous vous souvenez de la Cocoé ?
Bah bien sûr.
Bien sûr, c'était la commission de contrôle des opérations électorales de l'UMP quand il y avait des soupçons de fraude.
Mm-hmm. Ah, c'était le bon temps, hein. Mm. Le temps des copains. Oui. On savait s'amuser entre honnêtes hommes.
Mm. Ah, bah c'est encore votre bracelet électronique ?
Ah non, cette fois-ci, c'est pas moi. Hein. Défamation !
Ah bah Patrick Balkany, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous aussi, vous êtes assigné à résidence.
Je demande à Nicolas s'il veut que je lui fasse sortir son bracelet électronique de diamant. Je fais ça sur le mien, c'est très joli.
Je croyais que vous étiez ruiné. Vous auriez menti à la justice ?
Mensonge !
La vie personnelle de François Mitterrand fait l'objet de nouvelles révélations fracassantes. Dans son livre intitulé « Le dernier secret », Solène de Royer, grand reporter au Monde, dévoile la relation amoureuse du président Mitterrand, alors âgé de 71 ans, avec une étudiante en droit de 19 ans. Prénom bien clair dans le livre. Un amour clandestin qui dura 8 ans jusqu'à la mort du président et qui donna lieu à une abondante correspondance dont bien sûr voici un extrait. Nous sommes au début de l'histoire d'amour à l'automne 1988.
Claire, ma clairette, ma clarinette. L'été se termine enfin. J'espère que tu as bien fêté ton bac à la colo avec tes copines en pensant à moi. As-tu reçu le colis de friandises que je t'ai fait envoyer ? J'ai dit à Daniel que c'était pour les guerrieros du Nicaragua. C'est pour ça qu'elle a voulu à tout prix ajouter une cagoule et des moufles qu'elle a tricotées. Tu peux les jeter. J'ai aussi demandé à Anne Pinjot des crayons de couleur et des feutres. Tu sais qu'elle s'y connaît en peinture. De mon côté, j'ai bien reçu la casquette « Ainsi sois-je » de Mylène Farmer que tu m'as envoyée. Je la porte à l'envers, comme tu me l'as appris. En revanche, je ne sais pas si je la mettrai à l'ONU, comme tu me l'as demandé. Mais sache que je la garde toujours précieusement avec moi. L'autre jour, je l'avais sur la tête quand j'ai reçu Michel Rocard, mon premier ministre, dans mon bureau de l'Élysée. Je lui ai dit que c'était un cadeau de Nelson Mandela et que je la portais par fidélité à mes valeurs de gauche. Il a tout gobé, ce nigo. Il faut vraiment que je trouve un moyen de me débarrasser de lui. Maintenant, tu vas entrer à la fac et moi je vais retrouver mon travail harassant de président. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je n'ai pas redissoudre l'Assemblée pour refiler le boulot à Chirac ou Balladur. Après tout, la première cohabitation ne m'a pas trop mal réussi. Et comme ça, on pourra prendre des passes UGC illimitées pour aller au cinéma à Montparnasse. Maintenant que tu as l'âge de comprendre les choses de l'amour, ma clairette, j'aimerais beaucoup revoir avec toi la Boum et la Boum 2. Et si tu veux organiser un goûter avec tes copines pour les vacances de la Toussaint, je peux demander à Sophie Marceau de passer vous faire une petite surprise. Elle ne me refuse rien. Il faut aussi que je te présente Mazarine, ma fille cachée. J'espère qu'elle te plaira. Vous pourrez réviser, faire vos devoirs ensemble. Elle n'a que 14 ans, mais ce sera un peu comme une petite sœur pour toi. Tu verras, elle est espiègle. L'autre jour, avec le tube de son stylo bic, elle a envoyé une boulette de papier mâché dans l'œil de verre de Jean Edernalier. Il était furieux. Et depuis, il me fait la gueule, cet idiot international. Bah, ça lui passera avant que ça me reprenne. En attendant, je l'ai fait mettre sur écoute par gros s'ouvre. Je te ferai entendre les enregistrements. Il ne décolère pas. C'est irrésistible. Depuis que je te connais, ma petite Claire, je me sens rajeunir. C'est comme si les 52 ans qui nous séparent n'existaient pas. Je me sens dans la force de l'âge. Mon médecin, le bon docteur Gubler, n'en revient pas. Il croit que c'est grâce à son traitement à base de Vomaltine. Laisse-moi te confier mon petit secret. J'ai demandé à l'aîné de mes deux nigauds de fils, Jean-Christophe, celui qui traficote en Afrique, de me trouver de la corne de rhinocéros blanc broyée. J'en mets dans tous les plats. J'ai dit à Anne Pajot que c'était du sel de Noirmoutier que m'avait envoyé Ségolène. Depuis, j'ai une pêche d'enfer, comme tu le dis toi-même. J'ai hâte de te revoir. J'espère que, de tout mon cœur, que tu pourras venir à la soirée caviar et homard qu'organisent les Badinter. Je voudrais te les présenter officiellement. Ils sont mortellement ennuyeux, mais ils ont le bras long. J'ai déjà parlé de toi, Robert Badinter. Alors, ne te fatigue pas trop avec tes examens de droit. Il t'aidera le moment venu. Il me doit bien ça. Voilà, ma claire de lune. Il est tard et tu dois être couché car je sais que tu as un contrôle d'anglais demain matin. Je te dédie cet haïku japonais ancestral qui me fait penser à toi. Chapi, chapeau, patapo. Chapeau, chapi, patapi. Biri, bibi, rabada, dada.
Ah bon, de quel bon moment passé avec le président Mitterrand.
Il nous étonnera toujours.
Ah oui, tout ça, c'est ça, je peux vous dire.
Ça n'est pas fini. Hein.
Ça n'est pas fini. Merci mille fois. On vous retrouve sur le site RTL.fr et bien entendu demain matin sur RTL avec grand plaisir. Bonne journée à tous.
Joie.
À demain.
On va retrouver Cyril Lignac dans un instant, excusez-moi. Il veut nous donner une recette de gratin de fenouil pour nous montrer que ça peut être bon. Enfin, moi, j'en doute pas pour tout vous le dire. Mais essayez de, voilà, de convaincre les enfants aussi. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour, cher Cyril.
Bonjour.
On vous retrouve pour vos astuces quotidiennes à la demande de nos auditeurs. Aidez Laurence, elle vous demande de l'aide pour faire manger du fenouil à ses enfants.
Alors déjà, même moi qui suis grand, c'est pas mon légume préféré. Donc là, on va cuire le fenouil, on le coupe, on le cuit dans de l'eau avec un peu de sel. Bien cuit, on le sort, on égoutte. Alors deux choses une, soit on fait une petite béchamel, on hache bien les légumes. Et à ce moment-là, on met un petit peu de béchamel avec du fromage, on peut mettre un peu de jambon. Et là, on fait un petit gratin, en effet, comme pour vous Yves. Et au dernier moment, on ajoute un petit peu de chapelure et un petit peu de fromage. Et là, j'avoue que c'est hyper bon parce que on a ce petit goût anisé. Et finalement, comme il y a de la béchamel, ben pour les enfants, ça leur fait découvrir légèrement le goût anisé. Parce que ce qui est difficile avec le fenouil, c'est vraiment ce fort goût d'anis. Alors, si on le mange cru avec une vinaigrette, ça croque, ça sent bien l'anis. Les enfants, c'est pas leur truc.
Non, pas tout de suite, en tout cas.
Pas tout de suite. Soit on le fait revenir avec dans la poêle avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. On le fait confire. Et là, on lève des suprêmes d'orange et on met un petit peu d'orange. Le fenouil, ça marche hyper bien avec le jus d'orange.
C'est sympa, ça, oui.
Donc un peu comme les endives, on les caramélise à l'orange. Et là, on va quand même avoir des goûts un petit peu plus délicats. Mais quand même, ma solution préférée, c'est quand même avec un petit peu de béchamel dessus. Comme ça, on est sûr que les enfants le mangent. Mais on peut aussi s'amuser, une fois qu'on a passé la première étape, de les faire caraméliser comme les endives. C'est finalement comme les endives au jambon.
Exactement.
On les aimait tous avec le jambon et la béchamel. Les endives à la poêle, au début, c'est un peu plus difficile.
Bah, tout ça est extrêmement sympathique. Merci Cyril. Vous mettez le goût à l'honneur sur RTL et cela tombe bien, car je vous rappelle que nous sommes en pleine semaine du goût. Alors avec ce délicieux gratin, vous nous aidez à bien manger. C'est un peu le début du bonheur. Comme quoi le fenouil peut aussi participer à rendre la vie meilleure. Et en plus, ça arrive. C'est beau, non? On retrouve tout sur le site RTL.fr. Merci et à demain, Cyril. Il est très exactement 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité avec Dominique Tenza.
D'abord la mort de ce soldat français au Mali, le maréchal des logis Adrien Quélin, 29 ans. Il appartenait au 4e régiment des chasseurs de Gap, décédé accidentellement hier alors qu'il effectuait une opération de maintenance sur un camion. Une enquête est actuellement en cours. Le pass sanitaire au menu du Conseil des ministres. Tout à l'heure, le gouvernement souhaite prolonger son utilisation jusqu'au 31 juillet prochain, au cas où. Et même si tous les indicateurs Covid sont pour l'instant au vert, les autorités souhaitent se laisser la possibilité d'y avoir recours. Le cri d'alarme des pédiatres face à l'explosion des cas de bronchiolite en Île-de-France, notamment les services pédiatriques sont déjà submergés, principalement touchés les bébés nés depuis mars 2020, depuis le premier confinement, dont les défenses immunitaires sont beaucoup plus faibles que les autres en raison notamment de l'application des gestes barrières. Le lycéen qui a violemment bousculé l'une de ses profs à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Deux autres ados soupçonnés d'avoir filmé et diffusé les images de l'agression seront présentés, eux, à un juge des enfants. Le congrès des Républicains et la bataille pour la désignation du candidat qui va pouvoir démarrer, les prétendants, 5 hommes, une femme pour l'instant, doivent déposer leur candidature aujourd'hui auprès du parti. Et puis cette plainte de l'UFC Que Choisir contre McDonald's France, l'association accuse le géant du fast-food d'avoir recours de manière illégale à des enfants sur les réseaux sociaux pour faire sa publicité. McDonald's réagit ce matin en estimant qu'il s'agit d'une plainte abusive qui ne reflète absolument pas la nature de ses pratiques.